voilà, ça permet de se donner aussi des ordres de grandeur en termes de nombre d'acteurs. Et d'ailleurs, typiquement, avec la loi NOTRe et les EPT et EPCI qui ont récupéré les compétences, typiquement, aujourd'hui, on tombe plutôt à 52 mètres d'ouvrage de nature quand même qui peuvent être différentes et très diverses. C'est-à-dire que justement, on va avoir un certain nombre de syndicats plutôt sur la grande couronne qui va falloir justement voir comment on articule un petit peu l'ensemble, encore une fois, de cette compétence assainissement. Un des points historiques également qui est important à avoir en tête, c'est que l'assainissement, finalement, c'est aussi un sujet relativement récent à l'échelle de l'histoire de l'humanité, imaginons. Et donc, du coup, tout s'est construit au 19e siècle, plutôt. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé des maladies hydriques. L'objectif premier, quand même, et fondamental de l'assainissement, c'est aussi, la santé publique et vraiment la salubrité publique à proprement parler. Et donc, du coup, l'assainissement en zone parisienne, typiquement, a commencé après une grosse épidémie de choléra en 1832, et où on prend la décision de construire tous les égouts, justement, sous Paris, pour emmener les eaux usées le plus loin possible, entre guillemets. L'un des points de cette courbe ici, c'est qu'on a en orange les eaux usées produites par l'agglomération, imaginons, et en bleu, les capacités de traitement. Et on voit que la capacité de traitement n'atteint les eaux usées produites que dans les années 2000. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'on est capable d'accepter, disons, l'ensemble des eaux usées qui sont produites et de les traiter. Et donc ça, c'est vraiment à avoir en tête en termes de récent, du fait que l'assainissement est récent. Du coup, avec ces différents, les objectifs qui ont été fixés finalement à l'assainissement, la politique de l'eau, etc., a évolué énormément. Je ne sais pas si on voit bien la diapo là. C'est censé être écrit ici, au cas où. Vous voyez des choses écrites ou pas?
Non.
Non, ah mince, c'est bleu. Du coup, bon, ça a sauté, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas dramatique, mais du coup, je vais vous dire ce qu'il y a normalement décrit, en tout cas ici. En tout cas, du coup, les objectifs qui ont été fixés à l'assainissement ont vraiment bougé. Et du coup, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a différentes directives et différentes politiques locales, parce que la baignade, typiquement, voilà, ce n'est pas directement relié à une directive. Il y a une directive baignade, mais c'est finalement la volonté politique de mettre des baignades qui fait qu'il y a le sujet baignade au cœur. En tout cas, le SIAP, pour s'adapter à ces différents objectifs qui ont été fixés à l'assainissement, a fait des schémas directeurs. Donc, ici, il y a 1997, par exemple. Ici, il y avait 2007. Ici, il y a 2015, disons 2015-2016. Et là, finalement, il y a le 2018. L'un des points, c'est que ces différents schémas directeurs d'assainissement, c'est marqué ici SDA, en fait, ça veut dire schéma directeur d'assainissement. Et ça, disons que c'est le plan d'action d'un acteur de l'assainissement, quels principaux investissements il va faire sur les 5-10 prochaines années, imaginons, qu'est-ce qui est prioritaire à l'échelle du territoire. Et on a mis ici en haut, finalement, les grandes priorités qui ont été affichées dans ces différents grands documents stratégiques. Et encore une fois, le premier objectif, c'était d'être capable de collecter et de traiter l'entièreté des eaux. Et ça, c'est déjà pas simple, imaginons. Ensuite, on a eu finalement un objectif fondamental qui a été de traiter mieux. On ne traitait pas forcément très bien, imaginons, les eaux. Et du coup, l'objectif, ça a été d'améliorer finalement la qualité du traitement, imaginons. Et ensuite, en fait, ça, c'est l'étape dans laquelle on est, qui est entourée en rouge ici. Et du coup, c'est vraiment de pérenniser finalement, encore une fois, les investissements et les infrastructures qui ont été créées depuis longtemps et donc, du coup, qui ont une certaine capacité. Aujourd'hui, comment on arrive à maintenir ce patrimoine, etc., et à le rendre le plus efficace possible. Ici, ça ne se voit pas, mais ici, il y avait justement les différents sujets qui sont ici également. Et donc, du coup, ce qu'il faut retenir un petit peu, c'est qu'il y a la directive aux résidus urbaines, qui est la DERU. Et donc, du coup, cette directive, finalement, c'est un petit peu un objectif de moyens. C'est-à-dire que une station d'épuration qui fonctionne à peu près bien, elle doit fonctionner au moins comme ça, elle doit traiter au moins comme ça, entre guillemets, et sans réelle considération du milieu. On regarde la station et comment elle fonctionne, et il faut qu'elle fonctionne au moins assez bien, entre guillemets. Parce que du coup, ça fait une différence fondamentale avec la DCE. La DCE, c'est la directive 4 sur l'eau, et elle, en fait, elle regarde la qualité dans la rivière. Et donc, du coup, finalement, on passe d'un objectif de moyens un objectif de résultat dans la rivière. Et donc, du coup, finalement, peu importe, disons, est-ce qu'on fait un bon traitement ou quoi, c'est le résultat dans le milieu. Si on n'a pas une bonne qualité, ça veut dire qu'on ne traite pas assez ou bien qu'on gère mal une certaine partie ou quoi, ok. Et donc, du coup, finalement, là, il y a eu aussi un effet de bascule particulièrement important. L'objectif de moyen vers l'objectif de résultat. Aujourd'hui, avec la baignade, on rajoute une dimension encore supplémentaire qui, et finalement, elle est traduite aussi, par exemple, à l'international, c'est comme ça qu'on le traduit, mais c'est qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Avec la baignade, finalement, ça réduit l'entièreté des droits à l'erreur et on doit avoir un assainissement qui est quasiment parfait pour permettre ce niveau-là. Et finalement, évidemment, l'adaptation au changement climatique qui va avoir, encore une fois, des conséquences dramatiques et du coup, pour lequel on doit, quoi qu'il arrive, prendre en compte soit les impacts, soit essayer, en tout cas, d'atténuer les différents impacts. Donc ça, en fait, ça va jouer notamment sur les consommations énergétiques ou bien sur, par exemple, la baisse du débit de la Seine. On va avoir un certain nombre de problèmes qui vont se poser avec le changement climatique et que l'on doit prendre en compte dans nos différentes stratégies. Au cas où, en dessous, on a mis les différents contrats de bassin qui ont été passés avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie, donc justement, qui est l'un des principaux financeurs du monde de l'eau, imagine. Aujourd'hui, du coup, bon, là, l'objectif de cette présentation, c'est aussi d'axer justement sur les nouveautés avec la baignade. Et donc, du coup, depuis 2016, Paris s'est portée candidate pour accueillir les Jeux Olympiques et a annoncé une épreuve de nage en eau libre dans la Seine, devant la Tour Eiffel. Et donc, du coup, justement, depuis 2016, où on a fini finalement le SDA-DCE, donc l'objectif de qualité du milieu, on avait fini un petit peu cet objectif-là, et bien à partir de ce moment-là, on a rajouté l'objectif baignade. Comment on peut essayer de rendre la Seine baignade? Et donc tout l'objectif de l'étude du plan d'action baignade, ou en fait il y a un certain nombre de noms, mais la baignade quoi, disons, en zone parisienne, c'est d'établir le plan d'action prioritaire réaliste, hein, avec les actions qui peuvent être faites et vis-à-vis de l'amélioration de la qualité nécessaire, puisqu'on sait à quel point on doit essayer d'améliorer, en tout cas. Et donc, du coup, comment on construit le plan d'action qui nous permettra, en 2024, d'avoir et d'atteindre une qualité qui permet la baignade et notamment les épreuves de JO. Et donc, du coup, ça, c'est à l'échéance 2024. Mais, en tout cas, dans ce sujet baignade, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout l'objectif est également d'assurer une baignabilité pérenne et à long terme des, de la Marne et de la Seine, du coup, typiquement, mais du coup, en tout cas, des cours d'eau qui peuvent essayer d'atteindre, en tout cas, une qualité baignable. Et donc, du coup, l'objectif est bien de fournir un héritage des Jeux Olympiques à long terme. Finalement, les Jeux Olympiques auront permis d'instaurer des baignades urbaines en zone parisienne. Ça va également avec, évidemment, d'autres enjeux, donc typiquement le changement climatique. On sait qu'on va avoir des augmentations de température et donc, du coup, c'est aussi une offre de rafraîchissement, disons, et une politique globale aussi de rafraîchissement du territoire. Typiquement, on verra aussi à un moment. Vis-à-vis du périmètre de l'étude, l'un des points, c'est qu'il y a plus... Donc, il y avait le site des JO devant la Tour Eiffel, mais il y a un certain nombre d'autres sites qui ont été envisagés. Comme je vous disais, encore une fois, il y a un objectif, c'est l'héritage et d'avoir d'autres sites de baignade. Et donc, du coup, l'APUR a fait toute une... Donc, c'est l'Atelier parisien de l'urbanisme. Ils ont fait toute une étude pour voir où est-ce que ça serait possible d'installer des sites de baignade. Parce qu'après, ça pose aussi des questions de trafic fluvial, d'aménagement des berges, etc. Il faut bien se dire que nous, l'étude baignade qu'on fait, c'est des actions prioritaires vis-à-vis de la qualité de l'eau. Et donc après, il y a encore d'autres questions éventuellement qui peuvent se poser. L'un des points importants et politiques, c'est la Marne. La Marne, en fait, finalement, il y a le SAGE Marne Vive qui s'est positionné pour instaurer des baignades depuis, avant finalement l'annonce des JO, quoi, imaginons. Et donc, du coup, l'une des échéances et l'un des objectifs du SAGE Marne Vive, c'est la baignade en 2022, par exemple. Du coup, c'est aussi tout ça qui est envisagé dans l'étude et qui est calculé, quoi, disons ça. L'un des points aussi, c'est que la baignade est aujourd'hui envisageable. Pourquoi ? Grâce aux investissements qui ont été faits toutes ces dernières décennies et qui ont finalement permis d'améliorer grandement l'assainissement. Donc quand on parlait d'objectifs de moyens avec la DRU, justement ces objectifs de moyens nous ont poussé à faire des investissements qui ont un impact sur la qualité de l'eau quand même. il y a eu la DCE, on a fait les investissements qu'il faut, et puis enfin, là, on est en train de terminer aussi, parce que c'est des gros investissements. Mais en tout cas, on a réussi à améliorer grandement la qualité de l'eau ces 20 dernières années. Encore une fois, l'assainissement est une histoire récente. Mais l'un des points à voir dans cette étude-là, qu'on a mis en évidence de manière chiffrée, disons, c'est l'influence de problèmes diffus. C'est-à-dire que oui, nos investissements sont efficaces vis-à-vis de la qualité du milieu. On voit, enfin, pardon, je n'ai pas montré le graphique, mais on voit le vert qui grandit, disons, au fur et à mesure, et c'est le pourcentage de vert qui représente finalement la, si on est dans une bonne qualité, quoi, disons. Mais en tout cas, voilà, on a eu des investissements qui étaient efficaces, mais aujourd'hui, on a démontré que l'on a des problèmes diffus qui nous empêchent réellement d'atteindre des très très bonnes qualités. En fait, finalement, là, on tombe sur des seuils, en fait, on est bloqué, disons cela. On court sur un tapis roulant, il y a un petit peu cette image-là avec l'assainissement, mais on court sur un tapis roulant qui va plus vite que nous. Si on prend un exemple pour ça, c'est que nous, on essaye de construire des capacités de stockage, de transit pour amener les eaux à l'aval, mais sauf qu'on urbanise au fur et à mesure et on imperméabilise les sols. Et en fait, cette urbanisation et imperméabilisation va plus vite que nous, ce qu'on peut essayer de faire en termes d'augmentation de nos capacités de stockage, etc. Donc, l'un des points à retenir de cette dernière étude, c'est surtout l'importance et le caractère non négligeable, disons, des problèmes diffus. Et ces problèmes diffus, ça serait les erreurs de branchement, ça a été évoqué dans la vidéo, et donc du coup, justement, c'est quand on met des eaux usées dans les eaux pluviales qui, elles, vont directement à la rivière, et ben ça pollue en direct la rivière. Et l'autre problème, c'est évidemment la gestion des eaux pluviales. Quand on imperméabilise, on nous envoie toutes les eaux pluviales dans les eaux usées, et évidemment, entre guillemets, ça déborde. Je vous ai montré tout à l'heure l'échelle du territoire que ça représente. Si à cette échelle-là, on connecte toutes les gouttières, évidemment, entre guillemets, à l'aval, ça déborde, même avec des petites pluies. C'est ça le problème aussi, qui n'aurait pas dû, disons, faire déborder les réseaux. Comment rendre la Seine baignable? On a dû améliorer énormément nos connaissances en termes de bactéries et de baignabilité de la Seine, puisqu'avant, finalement, on avait assez peu d'informations sur ces sujets-là. Et donc, du coup, il y a eu un énorme travail de tous les acteurs, et ça a mené à une synergie importante entre tous les acteurs, mais pour améliorer, disons, le socle de connaissances vis-à-vis de la baignabilité, disons, dans les cours d'eau. Et l'un des points à retenir, c'est qu'il y a deux paramètres principaux, ça a été évoqué dans la présentation du CEDIF, mais Escherichia coli et les entérocoques, du coup, qui sont les paramètres qu'on suit pour ça. En termes de sources de contamination, encore une fois, là, on doit faire réellement une distinction entre lorsqu'il pleut ou lorsqu'il ne pleut pas. Et donc, du coup, en temps sec, finalement, les principales sources de pollution vont être sur les mauvais branchements des réseaux et les bateaux, parce qu'on a les bateaux qui peuvent éventuellement rejeter leurs eaux directement dans les rivières. Et on a le sujet, évidemment, du rejet des usines. Les rejets des usines, des stations d'épuration, qu'il ne faut pas confondre avec les stations d'eau potable, hein, du coup, on est bien sur deux types de stations différentes. En tout cas, la station d'épuration, elle va rejeter dans la rivière. Et nous, l'objectif, disons, c'est que ça pollue pas trop la rivière. L'eau, elle n'est pas du tout potable. C'est ça qu'il faut se dire. Et par contre, typiquement, il y a des sujets politiques derrière ça. C'est-à-dire qu'il y a certaines populations, imaginons, qui peuvent croire que c'est un cycle fermé. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument détruire. En temps de pluie, on va avoir d'autres sources de pollution. Et donc, typiquement, les débordements des réseaux. Encore une fois, si on met trop d'eau de pluie dans les réseaux, ça déborde. Et l'un des autres soucis, ça va être un petit peu les sujets de propreté dans la ville. Hein. Finalement, on peut avoir, du coup, les réseaux pluviaux stricts. Donc, ils n'ont que des eaux pluviales. Et bah, pourtant, ils vont amener des bactéries. Et en fait, ça, bah, ce n'est pas négligeable. C'est ça qu'on a essayé aussi de mesurer à l'intérieur de l'étude, la hiérarchisation, disons, entre les différentes sources de pollution et donc les actions à mener. Donc ça a mené, encore une fois, finalement, à toucher même des thématiques qui ne sont pas celles de l'assainissement, pas directement reliées à l'assainissement ou quoi ou qu'est-ce. Et donc, bref, ça nécessite une collaboration entre déjà les différents acteurs de l'assainissement, je vous ai déjà dit tout à l'heure qu'ils sont nombreux, mais aussi avec des acteurs dépendants d'autres compétences, en fait, qui vont avoir d'autres compétences. Et donc, typiquement, l'urbanisme, lorsqu'on parle de gestion à la source des eaux pluviales, de gestion des eaux pluviales hors des réseaux, bah, du coup, ça va toucher l'urbanisme. mais aussi, par exemple, les services espaces verts. Pourquoi ? Parce qu'on va démultiplier les espaces verts et les ouvrages de gestion à la source des eaux pluviales, et du coup, le service espaces verts, lui, va dire « Ah bah oui, mais moi, je ne peux pas entretenir tout ça. » Bref, en tout cas, c'est toutes ces synergies entre, et toutes ces articulations entre les différentes compétences et thématiques qu'il faut réellement voir derrière ces sujets-là. Et l'objectif baignade, du coup, aujourd'hui, est une opportunité de mettre l'eau en avant. L'eau a souvent été oubliée, finalement enterrée. On a enterré l'eau potable, l'assainissement, voire même les rivières. On a enterré les rivières. Et ben, les gens ont oublié finalement l'eau. Et donc, comment aujourd'hui, avec la baignade, on peut réussir à peut-être remettre l'eau un petit peu en avant. En termes de qualité, et pour vous montrer le type de résultats qu'on a essayé de mettre en avant dans cette étude-là, bah, ici, on a en rouge le seuil qu'il ne faut pas dépasser. Et donc ça, c'est en temps sec. Là, il faut se dire, il ne pleut même pas, on n'a aucun réseau qui déborde, et pourtant, on est déjà au seuil. Mais bon, c'est presque baignable. D'ailleurs, ça, il faut quand même le noter, en temps sec, la Seine et la Marne sont presque baignables de temps en temps et en certains points. Et en tout cas, on part de cette situation-là. Derrière, nous, on a modélisé finalement l'amélioration de la collecte. Donc, quand on disait qu'il y avait des mauvais branchements, on essaye de résoudre un certain nombre de mauvais branchements. On essaye aussi de retirer, de connecter typiquement les bateaux, d'éviter les rejets directs des bateaux dans les cours d'eau. Et donc, du coup, hop, on gagne un petit peu en qualité. On gagne ici avec la désinfection des rejets des usines. Encore une fois, c'est là qu'il faut voir qu'un rejet d'usine, ça pollue encore un peu. Et l'objectif, c'est un petit peu de maîtriser ça. Il faut se dire que là, à la base, on ne traite pas les bactéries. Et donc, du coup, là, l'objectif de la mise en place de cette désinfection, c'est vraiment spécifiquement d'aller traiter ces bactéries. Et donc, du coup, d'améliorer, finalement, la qualité du cours d'eau. Et encore une fois, on a dû aller encore améliorer, du coup, la qualité, donc, soit des mauvais branchements, mais un certain nombre de réseaux, finalement, du coup, qui vont poser problème. Et bref, du coup, ça, c'est un petit peu l'ensemble du plan d'action de comment on arrive à avancer en temps sec. Si on prend un petit peu la même chose en temps de pluie, et vous vous souvenez du seuil tout à l'heure qui était tout en haut, le 900, et maintenant il est ici. C'est la ligne rouge toujours en pointillé. Et en fait, finalement, avec les différentes actions qui vont être menées, on va permettre d'améliorer la qualité dans la rivière. Donc la désinfection des usines, il ne faut pas oublier que c'est principalement une action de temps sec. Mais en tout cas, ça améliore aussi la qualité en temps de pluie. Et derrière, on se pose la question de comment éviter les débordements de réseau. Et donc, lorsqu'on parle de fréquence unitaire un mois, c'est par exemple les périodes de retour. Il y en a sûrement qui manipulent un peu ces notions-là. Mais du coup, c'est de dire... D'habitude, on parle souvent de pluie décennale. Ça veut dire la pluie qui revient en moyenne tous les 10 ans. Et bien là, on parle de la pluie un mois, ça veut dire qu'il revient en moyenne tous les mois, et celle-ci, elle fait déborder les réseaux. Et donc, du coup, c'est ça un petit peu le problème, c'est que des toutes petites pluies sont capables de faire déborder les réseaux. Si celle-ci ne faisait pas déborder les réseaux, qu'est-ce que ça donnerait en termes de qualité? Et c'est ça qui est représenté ici. Comment on intercepte les rejets, les débordements pour les pluies d'un mois. Et en fait, finalement, ce n'est pas suffisant. On a regardé pour les pluies 3 mois. Si on intercepte toutes ces pluies 3 mois, et bien finalement, on a un gain qui est assez, vraiment important. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que ça, quand on parle d'intercepter les eaux, ça ne veut pas forcément dire aller construire des bassins pour que ça déborde dans le bassin, puis qu'on renvoie à la station d'épuration, etc. Ça, c'est ce qu'on fait d'habitude, entre guillemets, depuis longtemps. Non, ce qu'on essaye aussi de dire, c'est ces pluies-là ne devraient pas arriver dans le réseau. Et typiquement, si on mettait une petite toiture végétalisée ou une noue végétalisée ou je ne sais pas quoi, la petite pluie au moins pourrait aller dans ces endroits-là et éviter de faire déborder les réseaux. Voilà, donc du coup, tout le plan d'action, il est résumé là. Je ne sais pas si je suis en retard ou pas, d'ailleurs. Oui, ça va. Tout le plan d'action, il est à peu près là. Et donc du coup, désinfecter les rejets, encore une fois en temps sec, améliorer la collecte et donc résorber le nombre de mauvais branchements que l'on a dans les réseaux, parce que ça emmène des eaux usées directement à la rivière, c'est forcément problématique. Limiter les déversements, mais limiter les déversements, ça ne veut pas forcément dire construire des bassins, ça veut dire essayer d'avoir une approche un peu intégrée de la gestion de l'eau. Comment on arrive à faire des choses peut-être un petit peu plus intelligente, imaginons, que juste se connecter au réseau. D'ailleurs, il y a même un changement de paradigme. On a toujours cherché à évacuer les eaux, et aujourd'hui, il faut changer cette façon de penser et garder au maximum l'eau à la source. Et donc, du coup, c'est aussi comme ça qu'il faut penser l'interception, finalement, des eaux pluviales. Et donc, du coup, les rejets des bateaux dont on a parlé. Ça a mené à un protocole d'engagement donc qui regroupe l'ensemble du plan d'action avec les différentes actions qui sont affectées aux différents maîtres d'ouvrage, et il y a 26 signataires de ce protocole d'engagement. Et donc du coup, il vise la baignade, certes, mais il a des impacts énormes sur la DCE. Il va nous permettre d'améliorer grandement la qualité du cours d'eau, et il regroupe l'ensemble du plan d'action que j'ai évoqué. En termes d'animation territoriale, l'un des points, encore une fois, c'est qu'on a mis en évidence que les sujets diffus étaient absolument non négligeables et que l'on a besoin aujourd'hui d'y travailler. Et bien, ces sujets diffus, on essaye, comme ça nécessite l'articulation avec d'autres acteurs, et bien, on appelle ça globalement une action d'animation territoriale. C'est comment on va chercher les différents acteurs qui sont responsables des différentes compétences ou des différents sujets, sachant que l'objectif, c'est vraiment de casser le travail en silo. On ne peut plus travailler en silo à partir du moment où on commence à regarder réellement la qualité dans le cours d'eau, etc. Si l'urbanisme fait de l'imperméabilisation partout, entre guillemets, l'assainissement n'y arrivera pas. Et parfois, enfin, l'un des points à avoir, c'est qu'ici, ces différents acteurs, donc qui sont responsables de la compétence assainissement, mais ailleurs, parfois, c'est la collectivité compétente en urbanisme qui est responsable de l'assainissement. Et donc, en fait, ça revient aussi parfois à se tirer un peu une balle dans le pied et à ne pas pouvoir sortir finalement d'une boucle un peu infernale. Et donc, du coup, cette animation territoriale que l'on appelle comme ça, l'objectif, c'est de mettre tous les acteurs autour de la table et voir comment on arrive à avancer. Et donc, typiquement, les deux sujets diffus que j'ai évoqués, c'est la gestion des eaux pluviales et les mauvais branchements. Et donc, du coup, pour les mauvais branchements, on a sorti un site internet donc, le 12 avril. Et donc, du coup, l'objectif, c'est de donner toutes les informations, que ce soit à la collectivité ou aux particuliers, donc tant sur le volet réglementaire, déjà de l'explication, qu'est-ce qu'un mauvais branchement, pourquoi il y a des réseaux, pourquoi, qui sont les acteurs ou je ne sais pas quoi, etc. Mais aussi toutes les informations réglementaires et les références aux différentes collectivités, mais aussi les volets subventions, typiquement d'avoir les aides de l'agence de l'eau qui soient présentées, etc. On est en train aussi de travailler un outil parapluie. Ça, c'est pour aider le particulier. Bon, le particulier, ça reste quand même un petit peu compliqué, mais au moins les aménageurs qui ont envie de bien faire, entre guillemets. Et donc, du coup, de fournir un outil qui permet de dimensionner une gestion à la source des eaux pluviales. Comment je mesure ma noue végétalisée, comment je la dimensionne, etc. Et donc, du coup, ça, c'est l'outil parapluie qu'on est en train de lancer. Et l'un des points, c'est que pour ces deux outils, quoi qu'il arrive, on s'est focalisé sur le territoire concerné par la baignade et qui impacte directement la baignade. Et donc, du coup, c'est surtout Paris-Proche-Couronne. Mais demain, il y a vocation à étendre ces différents outils à l'ensemble de la ZAP, pardon, ça c'est un acronyme qui n'était pas expliqué, mais c'est la zone agglomérée parisienne, c'est la zone dense parisienne et c'est la zone SIAP aussi, comme on l'appelle. L'un des points, c'est que aussi, on se rend compte que on a une méconnaissance de tous les sujets de l'eau. Comme je le disais tout à l'heure, on a tout enterré, l'eau potable, les eaux pluviales, etc. Et en fait, on a rendu l'eau invisible. Les gens ne comprennent plus forcément comment fonctionne l'eau. Et aujourd'hui, on a un besoin de communication. Et donc, du coup, on est en train de lancer toute une stratégie de communication avec l'ensemble des maîtres d'ouvrage de la zone agglomérée parisienne. Et donc, l'objectif, c'est comment on arrive à avoir des synergies entre acteurs et pour avoir une force de frappe en termes de communication. Et sachant, encore une fois, qu'il y a un objectif de mutualisation des moyens entre les collectivités, on a tous, évidemment, des budgets qui sont assez restreints, etc. Et donc, comment on arrive à peut-être se nourrir les uns des autres des bonnes expériences, etc. Sachant que, encore une fois, ça concerne de l'interservice et de l'intercompétence. On a plein de compétences qui sont éventuellement concernées. Vis-à-vis du contrat Bièvre, le SIAP a signé le contrat Bièvre et parmi les actions, il s'est justement engagé à mettre à disposition ces différents outils de tous les acteurs d'ailleurs du territoire, etc. Et il y a un certain nombre de sujets justement en articulation qui sont travaillés. Pour le site Mon Branchement, bon, là, il y a les logos, et donc, du coup, je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, mais donc, du coup, fournir le maximum d'informations et de la vulgarisation. Il y a des vidéos de communication. D'ailleurs, je crois que c'est après, voilà. Il y a des vidéos de communication et des petites affichettes qui sont laissées à disposition des mairies, par exemple, pour, justement, communiquer sur la thématique des mauvais branchements. L'un des points importants, c'est qu'il y a aussi une cartographie. Et c'est, en fait, cette cartographie, elle nous sert justement, comme on disait tout à l'heure, qu'il y a entre guillemets, un millefeuille d'acteurs compétents sur l'assainissement, on ne sait pas trop, disons des fois, à qui le particulier doit s'adresser. Enfin, le particulier, lui surtout, ne sait pas à qui il doit s'adresser. Et donc, cette cartographie, elle vise à dire à chaque particulier à qui il doit s'adresser en tant que gestionnaire de réseau. C'est-à-dire que sa parcelle, elle est branchée sur le réseau du département et donc il doit s'adresser au département. La parcelle d'à côté, attention, elle est branchée à l'EPT, donc il doit contacter l'EPT. Et ça, je vous laisserai tester au cas où, si jamais, donc monbranchement.fr. Et donc typiquement, il y a cette cartographie qui est finalement un petit peu le centre d'ailleurs du site. Et l'objectif, c'est que le particulier appelle son gestionnaire de réseau. Pour parapluie, je l'ai un petit peu expliqué, c'est pour dimensionner les ouvrages de gestion à la source. Je passe un petit peu vite et vous aurez une présentation lundi là-dessus. Je fais un petit point sur le séminaire. Donc, on a organisé SIAP, Drieux et Agence de l'eau un séminaire en décembre 2019 avec beaucoup de directeurs finalement qui ont intervenu dans cette réunion et c'est assez important. Et du coup, enfin, il y a un portage politique aussi pour la gestion à la source des eaux pluviales. Et l'un des points que je voulais dire, c'est surtout que les actes et les vidéos sont en ligne. Et donc, ne pas hésiter à communiquer, à partager, à vous appuyer aussi sur un certain nombre de documents qui peuvent être à l'intérieur de ça. Et merci de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long. Et
merci. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la présentation qui vient de vous être faite?
Oui, Jérémy a une question, je t'en prie.
Oui, bonsoir. Ce n'était pas forcément une question, c'était plutôt un petit complément pour faire vraiment le pendant avec la Bièvre, puisqu'on est ici sur le territoire de la Bièvre. Merci beaucoup pour la présentation, elle était vraiment très intéressante. Il faut rappeler que la Bièvre, c'est une masse d'eau en tant que telle, tout comme la Seine. Réglementairement, en tout cas, elle est identifiée en tant que masse d'eau. Il y en a même plusieurs, parce que le Rue de Valence est aussi une masse d'eau. Et en fait, les diagnostics qui ont été faits dans le cadre du contrat territorial ont mis en avant les mêmes enjeux. C'est-à-dire qu'au niveau de la qualité de la bière, pour réussir à la reconquérir, on a des enjeux notamment sur le diffus, sur les branchements, ainsi que sur la gestion du temps de pluie, donc la gestion à la source des eaux pluviales. Alors, on n'aura peut-être pas de plage sur la Bièvre un jour, mais pour réussir à reconquérir la qualité de la Bièvre, on a exactement les mêmes enjeux. Donc c'est très important de pouvoir mener le même type d'action sur la Bièvre à l'échelle de la Bièvre. Et c'est également un affluent de la Seine. Donc les actions sur la Seine pour avoir du succès ne passent pas uniquement par la Seine, mais également par les grands affluents qu'elle draine, et notamment donc la Bièvre. Donc on a doublement intérêt au niveau de la Bièvre à pouvoir mettre en œuvre ces actions et à travailler aussi avec le SIAP pour réussir à avoir des résultats au niveau des branchements et de la gestion du temps de pluie.
Philippe Lecomte, si vous voulez.
Oui, bonsoir. J'ai bien aimé votre exposé. Vous avez beaucoup parlé effectivement de désimperméabiliser, de traiter les eaux pluviales à la source. Qu'est-ce que vous faites pour tous les autoroutes qui passent au niveau de nos bassins? Je pense la 86, mais je pense aussi surtout la 6. Qu'est-ce qui est prévu? Parce qu'on ne voit pas grand-chose pour l'instant.
Après, là, on tombe vraiment sur les sujets d'articulation de compétences. Typiquement, ça, c'est de la maîtrise d'ouvrage d'IRIF, donc de l'État. Et en fait, du coup, justement, ce qu'on essaye aussi de mettre en évidence, c'est que chacun a un petit peu, entre guillemets, ses fautes. Et donc, du coup, je ne sais pas, typiquement, il y a un petit peu ces sujets de négociation avec l'État de comment et quand ils vont réussir à faire ça. Typiquement, pour la 86, justement, c'est un sujet que l'on essaye de porter, etc., au vu de l'impact que ça a. Et l'un des points que l'on défend quoi qu'il arrive et qui est vraiment affiché aujourd'hui je suis le chargé de mission politique au pluvial finalement du CIRP, donc n'hésitez pas d'ailleurs à disposition si jamais pour tous les sujets pluviaux, hein, vraiment, et donc du coup l'un des points c'est chaque surface doit gérer ses eaux pluviales. Et donc, que ça soit une surface État, que ça soit chez un particulier, que ça soit la mairie, que ça soit n'importe quelle surface, finalement, doit gérer ses propres eaux pluviales. C'est ça le principe qu'il faut essayer de respecter. Et donc, justement, ça concerne l'entièreté de tous les acteurs, dont les surfaces publiques de l'État aussi. Et au cas où, du coup, c'est des sujets qu'on peut relancer, peut-être à discuter. Voilà, c'est...
Pour la suite, il faut relancer.
Merci, Bilal. Une autre question ?
Oui, tout à fait, pour aller un petit peu plus loin sur ce qui vient d'être dit. Quels sont les moyens incitatifs ou autres au niveau des particuliers ? Parce qu'on voit effectivement beaucoup d'évolutions. On est dans une phase de, enfin, moi en tout cas dans le secteur, de gentrification de l'environnement, et donc avec justement des habitudes de vie qui commencent à imperméabiliser les sols, enfin pas qui commencent, mais qui imperméabilisent les sols de façon bien plus importante que ce n'était le cas jusqu'à présent, avec des personnes qui étaient très habituées à conserver leur environnement naturel avec de grands jardins, des plantations, etc. Alors que maintenant, on voit beaucoup de terrains qui s'imperméabilisent pour avoir une allée goudronnée ou imperméable en tout cas, et qui prennent de plus en plus de surface sur les terrains.
Alors, pour les particuliers, justement, ça pose vraiment beaucoup de questions. L'un des points à retenir déjà, c'est que les collectivités ont aujourd'hui, et d'ailleurs on y travaille beaucoup là-dessus, et pareil, on peut aider aussi à ça, mais les collectivités ont les moyens de contraindre, disons, à porter leur politique pluviale et à la rendre opposable. L'un des principaux outils, ça, c'est le zonage pluvial. Et d'ailleurs, c'est vraiment fondamental parce que c'est une pièce maîtresse de la politique pluviale. Lorsque le zonage pluvial a été créé, les débats, c'était laisser le pouvoir au niveau local. Et donc, si ce zonage pluvial, qui est obligatoire depuis 1992, n'est pas fait, en réalité, ça perturbe l'entièreté de la réglementation pluviale. C'est-à-dire que c'est lui qui doit faire l'articulation entre les autres différents objectifs. S'il n'est pas là, eh ben les autres ne peuvent pas être directement opposables, typiquement aux particuliers. Il y a le PLU qui peut passer un certain nombre de règles, mais à chaque fois, on passe par des choses indirectes et, in fine, on perturbe la chose. Donc, la première chose à retenir, c'est que les collectivités, si elles le souhaitent, ont les moyens de travailler à ça. En termes de soutien, typiquement, parce que du coup, là, vous parliez aussi un petit peu d'animation, moi, je retiens une chose, hein, l'agence de l'eau accompagne toutes les études qui peuvent être faites par les collectivités, et donc typiquement, il y a les études de potentiel de désimperméabilisation, etc. Et donc ça, c'est l'idée, c'est d'aller faire un petit peu de l'arpentage, hein, je ne sais pas, mais d'aller à la main et voir chacune des parcelles, comment je peux déconnecter, combien ça coûterait, est-ce que c'est facile, difficile, et du coup, en fonction d'essayer d'établir des petits plans d'action. Derrière, il y a des outils d'animation que vous pouvez aussi utiliser. L'un des points, bon, pour parapluie, en fait, ça reste un petit peu difficile, c'est compliqué quand même. On a essayé de l'amener jusqu'au particulier, mais ça reste difficile. En revanche, il y a beaucoup de collectivités, et la majorité aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un problème mondial, hein, quand on disait que la Bièvre et pour la Seine, c'est la même chose. Enfin, il y a toutes les collectivités dans le monde qui ont les mêmes problèmes. Mais du coup, en tout cas, l'une des choses, c'est aussi les petites plaquettes explicatives pour les particuliers. C'est-à-dire que l'une des choses à retenir aussi pour la gestion des eaux pluviales, c'est que ce n'est pas forcément compliqué. Faire les choses les plus simples, c'est souvent la chose la plus efficace. Et pour déconnecter une gouttière, si on la met dans un bac à fleurs, le bac à fleurs, lui, va déborder vers le réseau, et bien en fait, dans le bac à fleurs, on va retenir la majorité des pluies. Parce que la majorité des pluies, c'est la petite bruine de Bretagne, c'est une petite pluie. Toutes les petites pluies, en fait, déjà, qui n'arriveraient pas dans le réseau, bah en fait, ferait gagner quoi qu'il arrive. D'ailleurs, tout à l'heure, j'en profite pour faire une petite parenthèse patrimoine, vu qu'on a parlé de patrimoine. Typiquement, il y a l'échelle de toute la zone agglomérée, en plus, il faut imaginer ça. Mais du coup, lorsqu'on déconnecte les eaux pluviales, ça revient à optimiser le patrimoine du gestionnaire d'assainissement. Pourquoi ? Parce que finalement, moi, si j'ai construit un bassin qui permettait de capter la pluie décennale, donc 10 ans, qui revient en moyenne tous les 10 ans, et ben, si j'ai déconnecté des eaux pluviales de ce bassin-là, enfin du bassin versant amont, etc., mais en tout cas, si j'ai déconnecté des eaux pluviales, et ben, ce bassin devient dimensionné pour un petit peu plus. Par exemple, pour T12 ans ou T13 ans. Imaginons une période de retour un petit peu plus grande, etc. L'un des points importants à voir derrière ça, c'est que c'est une absolue nécessité de faire ça, parce qu'avec le changement climatique, on va avoir une aggravation des pluies, qui, elle, va plutôt réduire la capacité de stockage de nos bassins ou de nos canalisations. Et donc, du coup, finalement, c'est un petit peu un équilibre, et avec la gestion à la source, c'est un petit peu la seule action qu'on peut faire pour changer drastiquement, changer de manière systémique, disons, le fonctionnement de l'assainissement, qui aujourd'hui n'est pas viable. Aujourd'hui, ce n'est pas viable à long terme de connecter toutes les eaux pluviales au réseau. Ce n'est pas possible. Et du coup, jusqu'aux particuliers, effectivement. Et la question, c'est peut-être des petites plaquettes, etc. Mais finalement, en prônant aussi des choses simples, eh ben, on arrive bien plus à passer à l'action aussi. Il y a aussi un petit peu cette notion-là qu'il faut voir derrière.
Merci.
Voilà, alors pour... Merci Bilal. Pour compléter sur l'animation pluviale, bon, on vous en a déjà beaucoup parlé lors d'autres classes d'eau, mais donc voilà, retenez bien quand Marie-Gabrielle Kouamedjo au sein du SMBVB accompagne aussi, enfin le SMBVB vous accompagne avec une animatrice dédiée sur ces sujets-là. On a déjà rencontré plusieurs communes pour évaluer ce potentiel de déconnexion des eaux pluviales sur des bâtiments, les bâtiments qui appartiennent aux communes. Puisque c'est, voilà, on va essayer d'agir en priorité sur ces bâtiments-là ou sur les espaces, les voiries ou les espaces comme les cimetières ou certains parcs qui appartiennent aussi aux communes pour essayer d'aller dans ce sens-là, donc de déconnexion pour diminuer l'impact sur les réseaux unitaires en particulier, mais aussi sur les réseaux amont de la Bièvre.
Après, toutes les questions de pluviales sont représentées lundi. Donc, si vous avez des questions ou si vous voulez plus d'approfondissement, il faudra revenir lundi sur la séance qui durera toute la journée. Et puis, je vous propose qu'on enchaîne pour ne pas perdre trop de temps et respecter un peu le planning. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Lehoucq.
Oui, bonsoir. Donc, je vais vous parler de l'amélioration de la sélectivité du bassin versant de la Bièvre dans les Hauts-de-Seine. Marie, peut-être on peut passer les deux petites vidéos comme ça, parce que je ne sais pas bien en fait le niveau de connaissance sur la problématique de la sélectivité. Donc je pense que ces deux petits motion design permettront de planter le décor.
Ok, alors les voilà. Alors hop, la première, je crois que c'est celle-là. là pour la première.
Ouais.
Et... Ah, c'était la deuxième en fait. Non. Attendez. Celle-là, on l'a vue. Et c'est celle-là qu'on n'a pas vue, c'est ça ?
Et celle-là, on l'a pas vue.
Ouais, parfait.
Merci, c'était donc pour présenter un petit peu le contexte de la bonne séparativité des réseaux. Donc, est-ce que c'est pour tout le monde, c'est clair la problématique, enfin, ce qu'est un réseau séparatif et la problématique donc, d'avoir les eaux usées bien branchées dans le réseau d'eau usée et les eaux pluviales bien branchées dans le réseau d'eau pluviale. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde ? Il semblerait.
Peut-être juste préciser que les réseaux séparatifs, ça concerne surtout l'amont du territoire et l'unitaire plutôt l'aval, du coup.
Non, pas forcément. Non.
En partie.
Pardon, Madame Mecker de Bagneux. Le problème est que dans certains cas, mais nous rejoignons un collecteur départemental qui est unitaire. C'est assez fréquent dans le nord du département, j'ai l'impression.
Alors, dans le nord du département, effectivement, c'est ce que j'allais présenter. Il y a uniquement le sud du département qui est en séparatif. Et donc, pour Bagneux, c'est uniquement la partie sud de Bagneux qui est en séparatif. Et tout le reste est en unitaire. Et donc, pour nous, ça représente la vallée de la Bièvre, 3950 branchements. Et on pourrait exutoire soit la Bièvre, le French choisi et donc qui rejoignent un milieu naturel. Donc c'est pour ça, nous, ce qui est en séparatif chez nous, ça va vers le milieu naturel, ça ne rejoint pas un réseau unitaire, sauf certains secteurs qui ne sont pas encore complètement en séparatif. Mais sinon, toute la partie nord du département est en séparatif, en unitaire, pardon. Après, si on se place au niveau de la parcelle peut être en séparatif et le réseau est en unitaire sous le domaine public. Je ne sais pas si c'était ça la différence.
C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'il y a des obligations pour les personnes qui s'installent. Enfin, il y avait, je ne sais pas si ça a été maintenu, puisqu'on va plus vers la retenue à la parcelle, ce qui est intéressant. Mais donc, les propriétaires sont obligés de faire du séparatif. Et puis ensuite, évidemment, l'eau coule non pas avec les eaux usées, mais dans le caniveau et rejoint l'exutoire
unitaire du département au bout de la rue.
Quand c'est en réseau, enfin, qu'on soit en secteur séparatif ou en secteur unitaire, au niveau de la parcelle, il faut séparer les eaux. Et donc, après, effectivement, ça peut aller soit dans un réseau séparatif, soit dans un réseau unitaire.
Nous, sur le bassin versant de la Bièvre, on considère que tout l'amont du bassin versant, donc de Saint-Quentin-en-Yvelines jusqu'à Antony, est en séparatif, donc à partir des branchements du particulier jusqu'au réseau, donc oui. Les eaux pluviales vont bien dans la Bièvre, et à partir d'Antony, par contre, sur l'aval du territoire, on a un secteur mixte entre certains réseaux qui sont séparatifs et d'autres unitaires, et sur l'extrême aval, à partir de Gentilly, Crémelin, là, on est vraiment sur un réseau unitaire pur.
D'accord. Et disons que pour nous, notre secteur séparatif a pour exutoire soit la Bièvre, soit le French Choisy, qui est donc un émissaire du SIAP pluvial et qui rejoint le milieu naturel. Voilà. On va peut-être continuer. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est déjà tout le travail qui est fait au niveau du département pour justement résorber tous les problèmes de sélectivité que l'on peut rencontrer. Donc, à ce niveau-là, on peut se placer sur la partie domaine public que je vais vous présenter maintenant et après sur la partie domaine privé, c'est-à-dire que les problèmes de sélectivité, on peut les trouver sous le domaine public ou sous le domaine privé. Donc, en ce qui concerne le domaine public, nous avons réalisé des études au niveau de nos réseaux pour, les études ont commencé en 2010 pour rechercher estimer les flux d'eau usée que l'on retrouvait dans les réseaux d'eau pluviale et les apports principaux des réseaux communaux aux réseaux départementaux par temps sec. Ça, c'était une première phase en 2010. Puis en 2011, on a caractérisé les connexions entre les réseaux EU et EP et l'estimation des surfaces actives raccordées aux réseaux EU par temps de pluie. Ce qui nous permettait déjà de voir où étaient les problèmes de sélectivité et où arrivaient directement des eaux usées dans le réseau d'eau pluviale qui ensuite se déverse directement dans le milieu naturel. Et ce qui a été bien expliqué par Bilal juste avant. Et par ailleurs, donc, les surfaces actives raccordées au réseau d'eau usée, c'est les eaux pluviales qui ruissellent, qui vont rejoindre le réseau d'eau usée et qui risquent soit de le faire déborder. Et pour éviter justement qu'il déborde, il existe des connexions entre les réseaux d'eau usée et le réseau d'eau pluviale pour éviter cette risque de saturation. Et donc, le surplus va rejoindre le réseau d'eau pluviale et se rejeter vers le milieu naturel. Ensuite, en 2013, donc une optimisation des connexions entre les réseaux EU et EP en vue de limiter justement les flux de pollution rejetés au réseau d'eau pluviale et donc voir de quelle manière on pouvait fermer ces connexions. La diapo suivante. Donc, comme vous l'avez vu, sur le système d'assainissement de l'agglomération parisienne, on est plusieurs mètres d'ouvrage. On a à l'amont les réseaux territoriaux et ensuite qui s'occupent de la collecte des eaux, qui les amène après dans le réseau départemental, qui ensuite amène ces eaux soit vers le milieu naturel, soit vers les émissaires du CIA. Ouais. Donc tout cela demande une bonne coordination entre les différents acteurs. Et dans ce cadre-là, on a mis en place un comité de pilotage en 2012 entre le département. À l'époque, ce n'était pas encore des établissements publics territoriaux, mais une communauté d'agglomération, donc des Hauts-de-Bièvre et du sud de Seine, avec des opérations concertées pour améliorer la sélectivité sur le bassin versant. Et dans ce cadre-là, des liaisons qui existaient vers le réseau d'eau pluviale ont été remises dans les bons lieux. Et donc, on voit que 1800 équivalents habitants ont pu être remis dans le réseau de musées. À Bagneux, 1100 équivalents habitants. Et à et avec les principaux flux d'eau usés dans le réseau d'eau pluviale ont été diagnostiqués. À partir de 2018, une étude bipartite avec Vallée Sud Grand Paris, donc l'EPT qui a permis de regrouper les Hauts-de-Bièvre et Sud-de-Seine, une étude bipartite a donc été réalisée. Ensuite, au niveau des études, donc, on se place bien sûr dans ce dont Bilal a parlé, les Jeux Olympiques de 2024 avec une qualité des eaux de baignade en Seine et donc une caractérisation des bassins versants prioritaires sur Antony, là où on doit faire en priorité des actions pour la sélectivité. Sachant qu'au niveau du département, on s'intéresse de toute manière à tout le bassin versant de la Bièvre au niveau séparatif pour améliorer cette sélectivité. On a réalisé de nouvelles études entre 2018 et 2020 avec des analyses par temps sec et par temps de pluie avec la volonté de fermer des liaisons entre les réseaux EU et EP et qui sont discriminantes pour la qualité de l'eau. Dans ce cadre, 41 liaisons historiques qui ont pour origine ce que j'expliquais, hein, la surcharge des réseaux EU vers les EP et les délestages effectués pour éviter les inondations. On a aussi des anciennes conceptions de regards mixtes où dans un regard, on va avoir le réseau de musée et le réseau de pluvial qui sont côte à côte et par temps de pluie, va amener un mélange de ces eaux et donc une espèce de réseau unitaire. Et après, également, des surcharges de réseaux EP vers les EU qui sont liées au mauvais branchement et donc avec des prises de temps sec. C'est-à-dire qu'on va dans le réseau EP pour éviter que ces eaux usées aillent directement vers le milieu naturel, on va faire qu'on appelle une prise de temps sec, et donc un détournement des eaux usées à l'intérieur du réseau eau pluviale, un détournement de ces eaux usées pour les ramener dans le réseau d'eau usée. Donc toutes les villes concernées sont Bourg-la-Reine, Fontenay-aux-Roses, Sceaux, Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson et Antony. Par ailleurs, sur certains secteurs, c'est ce qu'on évoquait, il manque des bouts de collecteurs et donc on a une étude de faisabilité actuellement pour la création d'un collecteur rue La Brousse à Antony pour bien finaliser la réelle séparation des réseaux EU et EP. Par ailleurs, également, on a pu se rendre compte sur certaines parcelles qu'il manquait un branchement au réseau. Et donc, sous domaine public, nous sommes en train d'étudier 10 branchements à réaliser sur les communes d'Antony, Sceaux, Fontenay et Châtenay-Malabry. Donc, des exemples de travaux qui ont pu être réalisés avec des restructurations de déversoirs d'orage, c'est-à-dire ce qui va permettre d'éviter qu'on ait un surplus d'eau qui aille dans le réseau d'eau pluviale. Et donc, on a pu rehausser la hauteur du déversoir d'orage pour que, même par temps de pluie, les eaux, le mélange d'eau unitaire aille bien vers la station et ne rejoigne pas le réseau d'eau pluviale. Et donc, l'objectif visé, c'est 2 déversements par an au maximum, au lieu de 10 auparavant. La diapo suivante. Donc, pareil, sur 3 déversoirs d'orage à Antony, des travaux ont été réalisés en 2018 avec, toujours pareil, 2 déversements par an au maximum, au lieu de 5 actuellement, enfin, auparavant. Également le déo Versailles en amont de l'étang Colbert, avec toujours l'objectif de 2 déversements par an au maximum. Et donc on voit la mise en place d'un barrage à poutrelles pour justement éviter qu'il y ait un déversement vers le réseau de Colbert. Également une prise de temps sec au niveau du parc de la Vallée au Loup à Châtenay-Malabry, avec une réduction donc pour éviter que on ait des eaux pluviales qui rejoignent le réseau d'eau usée. Et donc sur cette carte, c'est un petit peu petit. C'est l'ensemble du diagnostic qui a pu être fait sur le bassin versant de la Bièvre, et là où on a des travaux à réaliser pour justement réduire le nombre d'équivalents habitants qui rejoint le réseau d'eau pluviale. Donc voilà, ça c'est surtout la partie domaine public. Sur la partie domaine privé, nous réalisons au niveau des branchements, donc au niveau des parcelles, un contrôle et une aide à la mise en conformité des installations privées. Et donc les contrôles de conformité se divisent en 3 types de visites. Donc les visites initiales, c'est-à-dire la première fois où on va pouvoir venir sur la parcelle diagnostiquer les installations. Et donc avec des tests au colorant pour bien vérifier qu'on n'a pas les eaux usées, les eaux pluviales qui se rejoignent sur la parcelle. En 2020, nous avons réalisé 584 contrôles. Une fois qu'on a réalisé le contrôle et qu'on voit qu'il y a une non-conformité, nous réalisons des visites conseils pour aider les particuliers à se mettre en conformité et bien comprendre les travaux qui sont à réaliser sur leur parcelle pour se mettre en conformité. Donc en 2020, nous avons réalisé 31 visites. Ensuite, nous avons les contre-visites, c'est-à-dire qu'une fois que le particulier a réalisé les travaux, nous venons constater sur place que les travaux sont bien conformes pour pouvoir délivrer une conformité. Donc la difficulté principale dans ce travail, c'est la prise de rendez-vous, puisque arriver à convaincre le particulier de laisser entrer une équipe, de faire un diagnostic, et arriver à joindre le particulier, c'est extrêmement difficile. Ce travail-là, nous le réalisons depuis 2006, et le bilan que l'on en tire, c'est que des non-conformités de type eau usée dans les eaux pluviales, nous avons diagnostiqué 117 non-conformités, ce qui représente environ 4% des enquêtes réalisées. Selon ce ratio, environ 39 non-conformités EU dans EP sont estimées pour les contrôles restants. Voilà, et donc on a pu corriger 52 non-conformités, et donc ce qui fait qu'il en reste 104 pour que tout l'ensemble des EU dans les EP soit corrigé. Ce qui concerne les EP dans les EU, on voit qu'il y a un pourcentage beaucoup plus élevé de non-conformités, avec 42% des enquêtes qui diagnostiquent une non-conformité de type EP dans EU. Ce qui veut dire qu'en gros, on a 1443 non-conformités restantes à corriger. Dans le cadre de la baignade, ce que l'on traite en priorité, c'est la problématique EU dans EP. Donc, dans l'aide que l'on peut apporter aux particuliers, donc on a signé une convention de mandat avec l'agence de l'eau, et donc cette convention de mandat permet d'apporter une aide financière aux particuliers pour la mise en conformité. On a un premier dans ce dossier qui est la résidence Champagne à Antony, qui représentait 553 équivalent habitant, et on apporte donc une aide, enfin, par le biais de l'Agence de l'eau, une aide d'environ 100 000 euros. Et nous avons 5 dossiers de particuliers en cours d'élaboration où l'aide là est de 4 200 euros par dossier au maximum. Et comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'il y a un problème de branchement sous domaine public, le département prend à sa charge la création du branchement manquant, et donc c'est l'étude qui est... La communication, donc effectivement, il est très important d'arriver à sensibiliser les particuliers sur cette problématique et aussi de pouvoir obtenir les rendez-vous. Donc nous avons des personnalisé avec de nombreuses relances, des appels téléphoniques pour les prises de rendez-vous avec une base de données, un site internet dont vous avez vu les deux motion design tout à l'heure, un boîtage donc dans les rues, là où on a diagnostiqué des non-conformités, nous déposons des avis de passage. Nous avons des panneaux d'affichage, des panneaux digitaux et un dépliant de sensibilisation en 3 volets qui est déposé, enfin qui est joint au courrier et qui est aussi déposé en mairie et dans les boîtes. La page suivante, voilà l'intérieur du dépliant où donc on explique bien la problématique de la non-conformité, à quoi sert un diagnostic et qu'est-ce qu'il faut faire en cas de non-conformité. Donc on a repris un petit, dans ce dépliant le schéma que l'on présente dans le motion design. Je ne peux pas vous réexpliquer puisqu'on a vu le motion design. Et toujours dans la communication, donc nous avons des véhicules qui sont logotés par rapport à cette campagne-là, et donc l'adresse du site internet, tous bien branchés. Voilà, donc on peut passer, c'était voilà. Après les premières conclusions, donc la difficulté de réaliser les programmes de visite et de mise en conformité, l'intérêt de la mise à disposition de documents communs d'information pour les particuliers et les élus. Donc là, on a une coordination avec le SIAP et le site monbranchement.fr dont a parlé Bilal tout à l'heure, et donc avec le petit logo que vous voyez juste au-dessus. Le comité de pilotage qualité de l'eau et baignade avec un protocole d'engagement de la part du département sur l'atteinte de la qualité eau de baignade et donc toute la démarche qui est en cours, et également la nécessité d'obtenir une référence réglementaire, voire législative, pour encadrer plus efficacement les visites et les travaux de mise en conformité. En fait, on a une réelle difficulté à obtenir les rendez-vous et l'obligation de mise en conformité. Et pour nous, c'est vraiment une fête.
J'avais une petite précision par rapport à l'opération de la résidence Champagne et Anthony. Donc vous avez pu apporter une aide de l'Agence de l'eau. Est-ce que vous savez ce qui reste à charge des particuliers pour la mise en conformité des branchements? Quelle part ça peut en fait cette subvention? Comme elle est mutualisée, ça doit permettre de financer une part plus importante des travaux. Quelle est la part restante? Oui, par exemple, pour cette équation
sur la résidence de Champagne, là, c'est BF qui a réalisé les travaux. C'est pas les particuliers. Alors là, j'ai pas en tête le montant global des travaux, mais je pense que pour ce qui est les travaux uniquement sur la mise en conformité, je pense que ça couvre l'ensemble des dépenses. Après, pour les particuliers, les 4 200 €, c'est un maximum, mais c'est également au prorata des travaux. C'est-à-dire que si les travaux de mise en conformité coûtent 3 000 €, ils auront les 3 000 euros intégralement, et donc 100% des travaux auront été pris en charge. Après, c'est, si ça dépasse 4 200 €, le prorata qui reste sera à la charge du particulier.
Donc là, a priori, les particuliers n'ont pas eu à payer une partie de ce montant.
Et effectivement, j'allais y venir, je vois que Bilal a rajouté quelque chose. Donc, lorsque le particulier déconnecte ses eaux pluviales, il peut bénéficier de 1 000 € en plus des 4 200 €. Donc, on incite fortement lorsqu'il manque un branchement eau pluviale, on l'incite plutôt fortement à déconnecter ses eaux pluviales plutôt que d'avoir des travaux de raccordement à réaliser au réseau d'eau pluviale.
J'en profite pour réagir puisqu'on parle un peu financier, etc. Il y a aussi un petit sujet de prime solidaire, donc si jamais certains en ont entendu parler. Mais donc du coup, le SIAP perçoit auprès de l'Agence de l'eau Seine-Normandie une prime pour épuration, disons pour la pollution évitée au cours d'eau. Et le SIAP a débloqué 30 millions d'euros à destination de tous les maîtres d'ouvrage de la zone SIAP, justement pour travailler aussi à ces sujets-là et peut-être typiquement permettre aussi une subvention directe et réduire les restes à charge, etc. Enfin, il y a différentes articulations, il y a différentes utilisations aussi de cette prime solidaire, mais en tout cas, finalement, il y a aussi des montants qui sont débloqués pour ça. Et encore une fois, l'Agence de l'eau aide aussi beaucoup d'études, beaucoup de... Ne jamais oublier l'Agence de l'eau, quoi, dans tous ces sujets-là, hein, vraiment.
Je vais vous présenter les aides de l'Agence de l'eau juste après. Donc, s'il y a des dernières questions par rapport à cette présentation. Et sinon, je crois qu'il y avait Madame Thibault qui avait une question par rapport à la présentation de Bilal. Apparemment, je n'avais pas vu qu'il y avait une question en plus. Donc, si jamais elle veut prendre la parole.
Oui, en fait, c'est ce que je voulais dire. Merci, Marie. Désolée. C'était pas très grave. En fait, ce que je voulais dire, c'est que en ce qui concernait les eaux de ruissellement, maintenant, il y a le SAGE qui met des obligations pour que l'absorption se fasse à la parcelle. Et ça, c'est dans les PLU aussi, c'est mentionné à partir du moment où il y a un SAGE sur le territoire. Ces instructions, j'allais dire, ou ces prérogatives, sont instruites dans les PLU. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire quand même que je parle en tant que vice-présidente du comité de bassin, qu'il y a actuellement une participation publique pour le SDAGE justement. Et j'invite tout le monde à se mettre à répondre à cette enquête de façon à ce que justement tout ce qu'on vient de nous dire là puisse être remonté jusqu'à l'Agence de l'eau et ça puisse être pris en compte davantage.
Alors sur ce point-là, la commission locale de l'eau va rendre un avis donc à l'échelle du bassin versant de la Bièvre lors de la prochaine clé qui va avoir lieu en juin.
Parce que vous avez jusqu'au 1er juillet. Hein. Vous avez jusqu'au 1er juillet en ce qui concerne les institutionnels et les particuliers. Chacun de nous peut émettre un avis jusqu'au 1er septembre. Donc j'invite tout le monde à le faire, quoi.
Voilà, chaque particulier. Et puis pour les institutions du bassin versant, ça pourrait être mutualisé. Bon, certains l'ont déjà fait, le département du Val-de-Marne, le SIAP, mais voilà, la commission locale de l'eau rendra aussi un avis, donc il pourrait être... qui prendra en compte aussi les avis déjà rendus sur le bassin.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? Bon, bah dans ce cas, je vais continuer avec la présentation des aides de l'Agence de l'eau. Jérémy, si tu es encore là et que tu veux compléter, n'hésite pas. Et je vais essayer de faire rapidement parce qu'on est un petit peu en retard. Donc, l'Agence de l'eau, c'est un acteur qu'on a déjà présenté au cours des classes d'eau, mais pour rappel, c'est un établissement public qui a été créé en 1964 et qui est sous tutelle des ministères de l'écologie et des finances. Parce que donc l'Agence de l'eau touche les redevances des particuliers et ensuite gère elle-même son budget, redistribue les financements pour les projets liés à l'amélioration de la qualité de l'eau. Donc l'Agence de l'eau permet une gestion décentralisée au niveau des grands bassins hydrographiques. Donc il y a six grands bassins hydrographiques en France, en gros un par grand fleuve côtier. Et donc il y a une agence de l'eau par grand bassin hydrographique. Et donc nous, sur notre territoire, c'est l'agence de l'eau Seine-Normandie. L'agence de l'eau, du coup, mène une politique solidaire à l'échelle d'un bassin versant et au plus près des acteurs locaux, c'est-à-dire qu'elle va permettre une coordination, par exemple, entre l'amont et l'aval d'un même bassin versant, et aussi entre les différents acteurs, par exemple entre urbains, enfin les acteurs de la ville, quoi, et ruraux. Et c'est particulièrement vrai en Île-de-France où on a beaucoup de, enfin une forte population qui est regroupée sur une petite superficie et donc qui génère en fait une forte pollution et qui entraîne une nécessité de solidarité entre les différentes échelles qui peut exister sur le bassin versant. Et donc l'Agence de l'eau est organisée avec un comité de bassin. Qui va être l'organe délibératif de l'Agence de l'eau, qui va regrouper tous les acteurs d'un même bassin versant, par exemple public et privé, et d'un conseil d'administration, qui va être l'organe exécutif de l'Agence de l'eau, et qui va suivre les grandes orientations qui sont fixées par le comité de bassin. Et l'Agence de l'eau, derrière, est l'entité qui va mettre en œuvre concrètement la politique qui est déterminée par le comité de bassin et le conseil d'administration. Donc l'Agence de l'eau met en œuvre la politique publique de l'eau et va répondre aux objectifs des dispositions du SAGE et du SDAGE et va décliner ces objectifs de façon opérationnelle via des plans d'action territoriaux. Donc c'est un partenaire technique et financier pour les maîtres, enfin pour les acteurs du territoire. Les moyens de l'Agence de l'eau, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, elle perçoit en fait auprès des usagers les redevances et les redistribue sous forme d'aide aux acteurs qui en ont besoin et qui entreprennent des actions de protection du milieu naturel. L'Agence de l'eau organise ses aides selon le 11e programme d'intervention qui est sur la période 2019-2024, donc pour 6 ans. Donc c'est une période assez longue pour une organisation d'aide. Donc ça permet un cadre stable pour les demandeurs d'aide. Et ce 11e programme regroupe 5 priorités donc pour les 6 ans à venir. Donc tout d'abord, l'objectif de l'atteinte du bon état des masses d'eau. Donc sur le territoire du bassin versant de la Bièvre, ce bon état est globalement demandé pour 2027. Une des grandes priorités aussi de ce 11e programme qui le différencie des programmes précédents, c'est l'adaptation au changement climatique qui c'est de plus en plus urgent avec les conséquences qu'on connaît, hein, les sécheresses, des pluies de plus en plus intenses. Donc pour ce point-là, vous aurez une séance de la classe d'eau spécifique qui sera le jeudi 10 juin en soirée, en présentiel. La troisième priorité, c'est la reconquête de la biodiversité, donc qui va passer par les projets de renaturation, sur la Bièvre aussi de réouverture. Donc on a déjà visité quelques projets de renaturation vendredi dernier lors de la classe d'eau, et pour les réouvertures, on les découvrira samedi, bon pas lui, mais le prochain, le 5 juin, dans la matinée. La quatrième priorité, c'est la mobilisation des acteurs et la solidarité aux territoires ruraux. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, sur un bassin versant comme celui de la Bièvre, il y a une nécessité de solidarité entre les acteurs. puisque par exemple, on l'a vu tout à l'heure avec la présentation du CEDIF, l'eau potable n'est pas forcément produite sur le territoire du bassin versant de la Bièvre, donc ça nécessite forcément une bonne coordination et une bonne solidarité avec les acteurs du territoire, mais aussi au-delà. Et la dernière priorité, pardon, c'est la question de la santé publique. Donc c'est lié aussi à la problématique des mauvais branchements, puisque les mauvais branchements donc, vont influencer la pollution des cours d'eau. Donc pourquoi se préoccuper des mauvais branchements en ville? Donc déjà ça permet de répondre à l'obligation réglementaire, donc c'est-à-dire que tout particulier doit se raccorder au réseau existant. Ça va permettre d'améliorer le fonctionnement du réseau d'assainissement et de la station d'épuration, puisque ça va permettre, si on est bien raccordé, de limiter les saturations des réseaux et d'éviter, comme on peut le voir sur l'image en haut à droite, une saturation des réseaux et donc un surplus d'eau qui va ressortir des bouches d'égout notamment. Et ça va permettre aussi de protéger le milieu aquatique. Donc comme on peut voir sur l'image d'en bas, on voit une pollution en marronâtre qui se déverse directement dans les cours d'eau. Donc ça, c'est le cas quand il y a des mauvais branchements d'eau usée qui sont reliés sur des branchements d'eau pluviale qui se déversent directement dans le milieu naturel sans traitement au préalable. Donc l'agence de l'eau, donc pour ses aides, elle ne finance pas directement les particuliers, elle va financer aux maîtres d'ouvrage qui ont la compétence assainissement et pour des opérations groupées. Donc auparavant, les aides étaient, comme vous pouvez le voir sur le tableau, de 3 500 €. Et depuis la crise sanitaire et puis pour favoriser aussi une dynamique dans le cadre du plan baignade, l'agence de l'eau a augmenté ses aides depuis juin 2020 à 4 200 €. Donc il y a deux montages possibles pour une demande d'aide, donc on peut voir sur le petit tableau. Soit c'est la collectivité compétente possède une convention de mandat, comme vous l'a expliqué tout à l'heure Monsieur Lehoux, donc c'est le cas du 92. La convention de mandat, ça va permettre de mutualiser les aides des particuliers qui sont concernés par des travaux de mauvais branchement. Donc ça veut dire qu'il ne va pas forcément avoir besoin d'un certain nombre de particuliers. Parce qu'en fait, l'agence de l'eau donc, va intervenir pour donner ses aides à partir d'un certain nombre de particuliers touchés par la problématique de mise en conformité de branchement. C'est pour ça qu'on parle d'opérations groupées. Et la convention de mandat permet justement de s'affranchir en partie de ce nombre requis, puisque ça va être la collectivité qui va gérer qui va gérer le suivi des mises en conformité des particuliers. Et donc on a aussi la possibilité d'une maîtrise d'ouvrage public, c'est-à-dire que la collectivité compétente en assainissement va réaliser les travaux de conformité pour la charge des particuliers. Donc dans le cadre d'une convention de mandat ou d'une maîtrise d'ouvrage privée, c'est le particulier qui va choisir l'entreprise avec laquelle il va réaliser les travaux. Et dans le cas d'une maîtrise d'ouvrage public, c'est la collectivité qui va réaliser, qui va faire le choix de l'entreprise qui sera responsable des travaux. Et donc comme le signalait Bilal tout à l'heure, on a une prime qui s'ajoute de 1 000 € si en plus il y a une déconnexion des eaux pluviales lors de la mise en conformité du branchement. Et en plus de ça, l'agence de l'eau va financer aussi à 50% les études qui seront préalables aux travaux, c'est-à-dire les diagnostics assainissement qui vont permettre d'identifier les mauvais branchements à corriger. Donc sur le bassin versant de la Bièvre, c'est principalement les interlocuteurs de la Bièvre Aval qui possèdent pour le moment des conventions de mandat avec l'agence de l'eau, donc les départements et les EPT. Sur la Bièvre Amont, ce n'est pas encore le cas, mais ça devrait pouvoir l'être à l'avenir. Il faut savoir que sur l'amont du territoire, donc les communautés d'agglomération sont encore en train de réaliser leur schéma directeur d'aménagement, leur SDA, et donc à l'issue de ce SDA, ils auront une meilleure visibilité des travaux qui sont à faire et qui restent à faire, et ça pourrait être l'occasion pour eux de signer une convention de mandat avec l'agence de l'eau. Donc pour la construction d'un dossier de demande d'aide, concrètement comment ça se passe? Donc la collectivité qui est en charge de l'assainissement va identifier un secteur à contrôler parce qu'ils ont eu des retours de pollution, par exemple. Ils vont ensuite réaliser un diagnostic, donc ils vont contrôler les branchements et identifier quels sont les mauvais branchements à corriger. Donc comme vous pouvez le voir sur l'image d'en bas, ça se fait par exemple avec des tests au fluor. Donc ils vont colorer la rivière et qui sont... Donc on va déposer une partie, enfin le test colorant en fait dans les habitations. Et si on les retrouve directement dans la rivière, c'est signe que le branchement n'est pas bien raccordé au réseau d'eau usée. Donc ensuite, une fois qu'on a identifié quels branchements sont mal connectés, il y a un contact auprès des riverains pour leur expliquer les aides de l'agence de l'eau, le choix retenu par la collectivité pour le montage financier, donc c'est-à-dire maîtrise d'ouvrage public ou privé. Et derrière, il va y avoir un rôle de conseil par la collectivité pour la réalisation des travaux et aussi de contrôle. Et donc, si une fois les travaux réalisés et contrôlés par la collectivité, les branchements sont bien conformes, les particuliers pourront toucher les aides de l'agence de l'eau. Voilà. Et donc, si vous voulez les contacter, voici leurs coordonnées. Jérémy, je ne sais pas si tu veux... ajouter quelque chose à ma présentation, puis sinon on passera rapidement au petit atelier participatif.
Oui, vous m'entendez ?
Oui.
Oui, alors, deux petites choses, une très rapide, c'est que c'est quand même très rare les cas où on voit de la fluorescine comme ça dans la rivière. En général, avant d'atterrir dans la rivière, on fait les tests de l'habitation, on le retrouve sur la boîte de branchement sortie de propriété. On regarde si ça va dans les bons tuyaux. Dans quelques cas, on a un rejet direct en rivière, mais c'est quand même... C'est au niveau des canalisations. Je voulais juste revenir, si tu peux revenir sur le montage, convention de mandat, peut-être apporter quelques précisions. Historiquement, à l'agence, il y avait dans les anciens programmes deux montages, c'était la maîtrise d'ouvrage public et la maîtrise d'ouvrage privé. En fait, dans les deux cas, c'était des opérations groupées, donc il fallait qu'on ait un certain nombre de particuliers qui s'engagent dans une démarche. Que nous, ce qui nous intéressait, c'est d'avoir un impact. Si on avait une ou deux habitations, il n'y avait pas d'impact réel à l'échelle de la collectivité, donc on voulait qu'une opération groupée qui porte sur un certain nombre d'habitations. La différence entre la maîtrise d'ouvrage public et privé, c'est que dans un cas, effectivement, dans les deux cas, c'est la collectivité qui fait la demande de financement auprès de l'agence qui va percevoir les aides. La maîtrise d'ouvrage privé, elle se contente de faire un peu ce rôle de boîte à lettres et après chaque particulier fait appel à l'entreprise de son choix, c'est ce que tu expliquais. Et dans la maîtrise d'ouvrage public, en fait, elle va carrément passer un marché pour le compte des particuliers, donc elle va passer un marché sous le l'égide des codes des marchés publics. Et en fait, les particuliers ne font pas appel à l'entreprise de leur choix, ils font tout simplement l'entreprise qui a été mandatée par la collectivité. C'est vraiment une grosse différence. Ça impliquait aussi des différenciations au niveau des financements. On retrouve aussi avec la convention de mandat. Alors, je vais revenir sur la convention de mandat d'abord. La convention de mandat, c'est une nouveauté du 11e programme. En fait, on s'est rendu compte à la pratique que c'est très compliqué de réussir. C'est déjà très compliqué d'intervenir chez les particuliers. Ils n'aiment pas du tout qu'on intervienne dans le domaine privé. Donc, on a du mal à faire avancer ces opérations. Et en plus, il fallait attendre d'avoir un certain nombre de particuliers, donc 20, 30, 50, pour pouvoir engager une démarche. Il y en a qui attendaient pendant plusieurs mois, d'autres qu'on n'arrivait pas à motiver. Du coup, les opérations avaient du mal à sortir. Donc, on a décidé de faire cette notion de convention de mandat, qui en fait, la collectivité veut dire, voilà, moi, je vais faire tant de branchements par an pendant 3 ans. Donc, au bout de 3 ans, je vais faire 150 branchements, je vais en faire 50 par an. Donc, c'est une opération groupée, mais sans qu'on ait encore identifié les particuliers. Et on va apporter une aide sur ces 50 branchements par an. Donc, on va passer une convention pour 3 ans. Et au fur et à mesure que la collectivité a réussi à démarcher des particuliers, elle va leur reverser l'aide quand ils ont fait les travaux qu'ils ont fait dans les rues. Donc, en fait, c'est vachement pratique. C'est que du coup, on n'est plus obligé d'attendre ces personnes. Au fur et à mesure qu'on arrive à convaincre, que la collectivité arrive à convaincre des gens en faisant cette étude préalable, c'est contre la conformité qu'elle arrive à convaincre, au fur et à mesure, elle peut les financer. Donc, c'est vraiment la très grosse différence qui fait que c'est censé être beaucoup plus efficace en termes d'action. Après, que ce soit la maîtrise d'ouvrage privée ou la convention de mandat, dans les deux cas, c'est effectivement le particulier qui fait appel à l'opérateur de son choix pour faire les travaux. C'est vraiment la grosse différence. Ce qui fait qu'en termes de financement, il y a quand même une grosse différence qui me semble importante de souligner, c'est que pour la maîtrise d'ouvrage privé, la convention de mandat, chez nous les juristes ont considéré qu'en fait on apportait de l'aide à une collectivité, qu'il reversait aux particuliers, qu'il reversait à une entreprise, on n'avait pas beaucoup de jus sur l'argent public, donc du coup on se considère qu'il y avait un risque entre guillemets au niveau de l'argent public, et donc on instruit les aides individuellement. C'est-à-dire que si un particulier en a pour 3 500 euros, on lui versera 3 500 euros et ça s'arrête là. D'accord. Si un particulier en a pour 6 000 euros alors qu'on a un forfait qui est à 4 200, il ne percevra que 4 200. Dans la maîtrise d'ouvrage public, on verse de l'argent à la collectivité qui paie l'entreprise, c'est le schéma classique des aides. Dans ce cas-là, on considère qu'on a une visibilité sur l'argent public. Et dans ce cas-là, on va faire une gestion globalisée des branchements. Si on a une opération de 50 branchements, si un tel en a que pour 3 000 euros, mais le delta avec les 5 000 euros peut servir à une autre personne qu'on aurait pour 8 000 euros au lieu de 5 000 euros. C'est vraiment la très grosse différence. Et donc, ce qui fait que ça permet d'apporter beaucoup plus d'argent en particulier si jamais on a un certain nombre de particuliers qui sont nettement au-dessus des prix des forfaits de gestion. 4 200 euros, il ne sort pas de nulle part. Hein. C'était une étude qui avait été faite chez nous, si je ne me dis pas de bêtises, en tout cas en partenariat avec sûrement les collectivités, notamment les départements. On s'est aperçu, je crois, sur 91 et tout le secteur, le prix moyen, grosso modo, de la dépense sur la région Île-de-France, il était plus de 4 200 que 3 500 euros. Donc, on avait proposé, lors de la réévaluation du programme, de remonter ce montant-là dans le cadre de l'objectif Bignade. Et je crois que le préfet, alors je ne suis pas au groupe de travail Bignade, mais le préfet a même proposé de le remonter encore 5 000 euros pour motiver encore plus cette troupe, être sûr de rattraper les quelques cas particuliers qui sont au-dessus, parce qu'ils ont un très très grand terrain, donc un très bon linéaire, parce qu'ils ont, comme en zone de Fontainebleau, des blocs de grès dans les terrains qui font qu'il y a des surcoûts, parce qu'il faut casser ça pour faire les tranchées. Donc voilà, ça permet d'être sûr de quasiment avoir tout le monde qui est financé à 100% pour ces travaux. Voilà, ça me semblait important de soulever ces trucs, et après on pourra en détailler plus. Hein. Il y a des avantages et des inconvénients à chacune. La maîtrise d'ouvrage public, on fait un marché, donc on paye l'entreprise, et si jamais il y en a pour plus cher, il faut demander aux particuliers de rembourser le delta, donc il y a un rôle de perception, ça peut être fatigant. Voilà, chacun des avantages, sauf qu'on est sûr qu'avec une entreprise unique, en 6 mois, tous les travaux sont faits. En maîtrise d'ouvrage privé, on s'est aperçu qu'au bout de 2 ans, on n'avait que 40% des branchements qui étaient faits, parce que le particulier dit oui, je vais voir avec l'entreprise, et puis ça ne se fait pas, et ça ne se fait pas, donc on a une moins bonne réalisation. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Tout ouvrage privé, comme c'est lui qui paye son entreprise, on lui verse l'aide et si jamais on a pour plus cher, il n'y a pas de perception, c'est lui qui paye le delta sur l'entreprise. Donc voilà, il y a plein d'avantages et d'inconvénients, il faut voir selon les cas. Quand c'est des branchements qui sont diffus sur un territoire, la convention de mandat elle est très très bien adaptée. Quand c'est à l'échelle d'une rue parce qu'on vient de la mettre en séparative et qu'il faut refaire les branchements, les maîtrises d'ouvrage public ou privé peuvent être très très bien adaptées aussi. C'est cédé dans le temps, c'est les nombres de personnes identifiées, donc on peut mener une récupération assez facile. Donc voilà, il y a différents montages qui me semblent intéressants de détailler et qui peuvent être intéressants selon les contextes et les cas. La convention de mandat, ça s'est vraiment généralisé à l'échelle de toutes les grandes collectivités compétentes qui peuvent être les communautés d'agglomération ou les départements. C'est clair que ça s'est mis en place. Le SIAP aussi, je pense d'en avoir eu aussi. Je maîtrise parce que c'est pas moi qui m'occupe de cet acteur-là, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui se développe beaucoup dans le 11e programme. Ça facilite beaucoup le travail pour la collectivité en termes de demande d'aide et de délivrance des aides aux particuliers.
Pour info, du coup, pour témoigner côté SIAP, effectivement, du coup, c'est vraiment central, tous ces montages financiers, parce que vraiment, c'est les avantages et inconvénients de chacun, et du coup, qui joue énormément. Côté SIAP, du coup, il y a quand même des branchements sur le réseau du SIAP, et quelques-uns, et avec des mauvais branchements, et du coup, qu'on essaye de résoudre, et on est en train de passer ces travaux-là, justement.
Et c'est pareil sur la Bièvre. Le CAVB est un syndicat de transport pour la zone amont, mais comme tous les syndicats de transport, ils ont quelques cas particuliers où ils ont un certain nombre de branchements sur leur propre réseau, et donc ils peuvent potentiellement générer des branchements. Et on n'a pas parlé non plus, on a fait beaucoup de particuliers, mais on a aussi des branchements, des entreprises, des activités économiques, qui pareil, ont de mauvais branchements, et on peut avoir des conventions de mandat. On en a notamment avec le CAVB, par exemple, sur l'amont, pour travailler auprès des activités économiques.
Effectivement, on n'a pas vraiment parlé des mauvais branchements sur la partie amont du territoire, mais le CAVB réalise, comme le département des Hauts-de-Seine, comme le département du Val-de-Marne sur la partie aval, et les EPT d'ailleurs sur l'aval aussi, ces enquêtes de mise en conformité, pour la mise en conformité des branchements. Donc, c'est vraiment sur l'ensemble du territoire.
Alors, un gros bémol, le CAVB n'a que la compétence transport. Il n'a pas la compétence collecte, qui était du fait des commune et qui a été transférée aux communautés d'agglomération. Donc ça sera Versailles-Grand-Parc, Saint-Quentin-en-Yvelines, enfin les communautés de l'amont, du plateau, qui ont repris cette compétence. Et comme le disait Marie, dès qu'elles sont en train de faire le RSDA, parce qu'elles ont pris énormément de territoire d'un coup, donc il faut bien qu'elles fassent un peu un point pour savoir quelles sont les priorités sur les territoires. Et après ça, probablement, on peut espérer qu'il y aura des actions qui seront menées sur les branchements, parce que c'est très clairement une priorité du territoire. Je pense que ça sera identifié dans les schémas directeurs d'assainissement.
Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux aides qui ont été présentées de l'Agence de l'eau ?
Philippe Lecomte, levez la main.
Moi, j'avais deux questions. Mmh. La prime déconnexion de pluie, ça veut dire se déconnecter à 100% du réseau pluvial ou ça peut être partiel ? Parce que nous, on a des terrains, on a beaucoup d'argile, sauf Rennes. Et déconnecter 100%, est-ce que ça ne conduit pas à inonder les terrains des particuliers? Alors ça, c'est une première question. Et deuxième question, si je comprends bien dans le système de financement, en fait, c'est les particuliers qui avancent l'argent. On n'a pas de solution, finalement, qui pourrait ne pas avancer l'argent. Voilà, c'est deux questions.
Jérémy, tu veux répondre ou...
Faut peut-être me rappeler la deuxième question. Pour la première, j'ai un petit peu de chance parce qu'on en a discuté pas plus tard que cet après-midi avec notre spécialiste pluvial, parce que j'ai un collègue qui posait la question. Effectivement, on n'exige pas forcément qu'il y ait une déconnexion à 100%. Ça serait l'idéal. C'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Ça soulève plein de points. Il y a des systèmes très, très classiques. Nous, on met du puisard dans le jardin. C'est pas l'idéal. Notamment parce que les puisards sont des zones d'infiltration préférentielle vers la nappe. Les petites pluies qui peuvent être chargées en polluants atmosphériques, en polluants de la toiture, en polluants, un certain nombre de polluants, peuvent du coup se transférer à la nappe rapidement. Donc il y a plein d'ouvrages différents. Dans notre ancien programme, ça n'a jamais été reclarifié depuis, on demandait la gestion de la décennale. Donc c'est que derrière, il pouvait y avoir un trop-plein qui était renvoyé vers la raison. Il faut voir aussi en adéquation avec les puits locaux qui peuvent fixer des règles. Et surtout, c'est plus compliqué que ça parce qu'en fait, quand on met par exemple en place des cuves d'eau de pluie, c'est ce qui se fait beaucoup. Votre cuve, souvent, elle va être, se remplir à la première pluie de septembre et puis après, elle va rester, elle va être vidangée parce que ce sont des puits pour l'arrosage du jardin et ça n'est utilisé qu'au mois de juillet. C'est-à-dire que toute l'année, elle est pleine, vous ne la videz pas, donc les pluies qui suivent sont directement envoyés au réseau, donc finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qu'expliquait la personne cet après-midi, ce n'est pas forcément de gérer comme ça sur ce décennal, mais c'est de regarder mensuellement quels sont les besoins et de dimensionner vos ouvrages par rapport à ça. Alors, c'est un peu compliqué dans la logique, mais voilà, pour répondre à votre question, effectivement, on n'exige pas qu'il y ait 100%, ça serait l'idéal. Il y a des cas où on peut le faire. Moi, à titre personnel, dans mon jardin, je le fais. Alors, je suis un ancien jardin, mais j'ai mis une cuve de pluie et je n'ai rien mis derrière. Dès qu'elle est pleine, ça déborde et ça s'écoule dans la sol. C'est une terrasse argileuse. Ça va faire 10 ans maintenant. Pour l'instant, je n'ai pas de répercussions. On verra bien. Donc, c'est l'idéal. Mais voilà, dans la majorité des cas, on va, et c'est en adéquation, en accord avec les collectivités compétentes sur le sujet, on va éventuellement avoir un trou avec un rejet qui peut être débit limité, qui peut être au-delà d'une certaine pluie. Donc, voilà, c'est aussi de la bonne logique et en fonction du cas de chaque cas. Terrain qui est, c'est pareil, les solutions mises en œuvre ne sont pas les mêmes. Sur un terrain gypseux, vous ne ferez pas de puisard. Par contre, faire de l'infiltration en surface sur les premiers horizons du sol, c'est ce qui se passe sur la plupart des terrains gypseux. Quand il pleut aujourd'hui, ça a tout de suite les horizons, ça ne pose pas de soucis. Donc, c'est vraiment plus compliqué que ça. Il faut, les choix des solutions sont différents selon le contexte, selon le sol, selon certaines choses. Et le type de pluie, ben, c'est sûr que si vous avez une cour qui fait 20 mètres carrés, ben, vous ne gérez pas de la même manière. Après, ça peut être compliqué avec de la photosynthèse et pas mal d'autres choses.
Pour compléter, pour être conforme au SAGE, en termes de déconnexion, on peut estimer que si on déconnecte la pluie décennale, on est au top niveau. Si on est trop contraint et qu'on arrive au moins à déconnecter les 10 premiers millimètres, c'est le minimum requis. Donc voilà. On peut parler d'une déconnexion effective à partir du moment où on déconnecte au moins les 10 premiers millimètres.
Nous, ce qu'on a déterminé, c'est que les 8-10 premiers millimètres, ça correspondait en fait aux pluies à peu près annuelles. Les pluies courtes, ce qu'on appelle les pluies courantes, ça représente 80% de la pluviométrie qui tombe sur l'année. Donc déjà, avec ça, en gérant les pluies annuelles, c'est déjà un beau projet.
Et qui font parfois déborder les réseaux. Et du coup, si on retire ces petites pluies, bah on résout peut-être 80% des débordements de réseau.
Exactement, c'est ce que disait M. Affry tout à l'heure. La mensuelle, ça passe pas. Déjà, la trimestrielle, c'est mieux. Alors, si on est sur l'annuel, c'est tip-top. Avec ça, déjà, si on arrive à le mettre en place sur 80-90% des habitations du territoire, bah, on aurait réglé nos problématiques, je pense, sans difficulté.
Peut-être pour compléter très rapidement sur la partie déconnexion, l'un des points, c'est qu'on peut mettre en conformité ces branchements par déconnexion des eaux pluviales. C'est-à-dire que quand il y a des eaux usées, des eaux pluviales, justement, mélanger avec le réseau usé et finalement on ça, ça peut être très coûteux en termes de travaux. Il faut changer toutes les canalisations, blablabla, etc. Sauf que si on retire la gouttière le plus en amont possible, en fait, finalement, la gouttière, on l'empêche d'aller dans les eaux usées, ça y est, on a retiré les eaux pluviales et les eaux usées. Et en fait, on a mis en conformité un petit peu le branchement par des connexions des eaux pluviales. Et donc, il faut aussi voir éventuellement ces bénéfices-là, typiquement.
Oui, mais la question, c'est qui fait l'étude ?
Alors, l'étude, elle peut être menée dans le cadre, quand on finance des mises en conformité de branchement, donc ces fameux 4 200 ou 5 000 euros, il y a donc une étude préalable qui est faite. Il y a un bureau d'études qui va venir sur le terrain. Ces études, on les finance à 50%, c'est ce qu'on mettait sur la diapo. Et dans ce cadre-là, il peut proposer dans l'étude aussi une déconnexion. Si le particulier se signale comme étant intéressé, l'étude, en plus de la mise en conformité, va proposer une gestion de la parcelle. Donc, dans la partie étude préalable, qui est financée à 50%, la partie déconnexion des eaux gouttières, elle peut être abordée par le bureau d'études. C'est souvent ce qui se fait, d'ailleurs. Sur les expériences que moi j'ai menées, c'est souvent ce qui se faisait. Dans la convention, je suis moins au fait comment ça marche, mais sur les opérations classiques maîtrise d'ouvrage privé et public, avant d'entamer une action de travaux, on avait une phase étude où près des 5, 10, 15 particuliers qui étaient intéressés, on menait ces études de faisabilité, et ces études, donc ces enquêtes domiciliaires, ce qu'on appelle plus vulgairement ces enquêtes domiciliaires.
Du coup, ça, c'est dans le cadre d'une déconnexion des eaux pluviales qui compléterait une mise en conformité des branchements.
C'est ça, c'est dans le cadre d'une mise en conformité. Alors, on a déjà eu des cas où il y avait une rue où les particuliers souhaitaient, ils étaient conformes, ils souhaitaient tous se déconnecter. Et dans ce cas-là, on peut très bien financer une étude dans un premier temps de déconnexion et après uniquement les forfaits de déconnexion. Je l'ai déjà eu fait une fois en 10 ans, mais je l'ai déjà eu fait. C'est aussi possible dans ce sens-là. Il faut après, c'est à discuter avec le chargé d'opération de l'agence qui est en charge du territoire. Mais si le nombre de personnes est suffisamment intéressant, ça, c'est toujours ça de prix, entre guillemets. C'est toutes les petites gouttes qui font que le vase, à un moment, ne sera pas plein.
Après, la ville peut aussi mener une étude, donc à l'échelle de son périmètre, une étude sur le potentiel de déconnexion, au moins de son patrimoine, et éventuellement, pourquoi pas l'ouvrir
Le proposer aux particuliers. Pourquoi pas. On peut imaginer plein de choses, il n'y a pas une solution, on peut imaginer plein de choses, ça peut effectivement se faire comme ça, en proposant en optionnel, de dire on va prévoir 100 particuliers et un optionnel, et ça se fait, ça se fait pas, mais on propose aux particuliers qui sont intéressés. Il peut y avoir différents montages, il n'y a pas de souci. Après, je crois que vous aviez une deuxième question, qui était, je ne me souviens plus.
La deuxième question, c'est que si j'ai bien compris, c'est le particulier qui avance l'argent.
Alors, pas toujours. Après travaux, pas toujours. Alors, si vous êtes sur une maîtrise d'ouvrage privé, effectivement, c'est le particulier qui paie l'entrepreneur. Alors que dans la maîtrise d'ouvrage public, c'est la collectivité qui paie l'entreprise qui a été retenue. Donc, c'est plutôt dans la maîtrise d'ouvrage public, c'est la collectivité qui va avancer pour le particulier. Dans les autres montages, effectivement, c'est souvent le particulier qui avance l'argent et qui, une fois qu'il est... Nous, pour délivrer l'aide, en fait, on a besoin du certificat de conformité. Donc, effectivement, c'est le particulier qui avance l'argent dans la plupart des montages. Ça, c'est sûr. Mais la maîtrise d'ouvrage public, c'est plutôt la collectivité qui a avancé pour le particulier. Alors, souvent, du coup, elle demande une petite somme avant, pour être sûr, parce qu'il y a toujours des mauvais payeurs, une petite somme pendant, et puis le petit solde à la fin, si jamais le particulier en prend plus cher. Là, vu les nouveaux montants présentés, on peut imaginer qu'il ne va pas y en avoir beaucoup qui vont avoir, entre guillemets, à être au-dessus, mais ils devront quand même avancer, parce que dans une convention de mandat, ils font appel à une entreprise, ou dans la maîtrise d'ouvrage privée, ils font appel à une entreprise, ils font faire les travaux, ils fournissent les factures à la collectivité et le certificat de conformité, et la collectivité à qui on a versé l'aide, en fait, elle devient notre mandataire, notre bras armé, en fait, on lui donne l'argent, et c'est elle qui instruit les aides des particuliers, donc c'est elle qui va vérifier qu'il y a les factures, qui va vérifier qu'il y a le certificat, et qui va reverser au particulier. Donc, oui, il avance forcément, effectivement, la somme. C'est effectivement, ça peut être encore un petit frein parce qu'on peut se dire que 4 200 euros, c'est un prix moyen, c'est pas anodin, c'est une sacrée somme. Donc, effectivement, la pension de mandat elle permet d'être plus réactif parce que de temps en temps, nous, quand il y a un particulier qui avait payé, autrefois dans les deux autres montages, on versait pas particulier par particulier, on attendait d'avoir un paquet de 5, 10, 15 particuliers dans l'opération pour verser une somme parce que verser 1000 euros par 1000 euros ou des petits bouts par-ci par-là, c'était compliqué pour nous en termes de travail. Donc maintenant, comme c'est la collectivité qui est mandataire et qui a déjà reçu la convention, les aides, elle peut éventuellement en reverser une partie au particulier. Au fur et à mesure qu'elle avance dans son nombre de trucs, on lui reverse, nous aussi, les avances de somme. Donc, c'est beaucoup plus réactif. C'est-à-dire que dès que le particulier a fourni les éléments, la collectivité est susceptible de le rembourser plus rapidement que ce qu'on aurait fait, nous, en attendant d'avoir 3, 4, 5, 10 gus qui auraient fait leur mise en conformité. Mais ça peut encore représenter un frein, j'entends bien, que sortir 4000 euros comme ça, même si on est remboursé 2 mois plus tard, ce n'est pas anodin. Certaines personnes n'ont pas forcément cette économie d'argent-là pour pouvoir faire l'avance. Après, voilà, ça peut peut-être, je ne sais pas, ça sera les collectivités. Il y a des aides aussi d'autres personnes. Et juste pour précision quand même, on parlait du bâton et la carotte, c'était sur les branchements. Je sais pas si monsieur, je crois pas que monsieur Afrit en ait parlé, mais jusque-là, il y avait une obligation lors des ventes de mettre en tout cas de faire un contrôle de conformité des assainissements non collectifs. C'était pas encore obligatoire pour les branchements. Il me semble que c'est en réflexion dans le cadre des groupes de travail pour la baignade, de pourquoi pas avoir au moment des ventes une obligation de conformité, de contrôle de conformité des branchements. Ce qui pourrait être aussi un bon point pour faire avancer les choses. Monsieur Afrit, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, hein. Mais c'est une réflexion, ce qui voudrait dire qu'à la vente, si votre bien n'est pas conforme, eh bien la vente, soit il y a une obligation de faire avant, soit dans les 2 ans, il y a cette obligation de faire. Moi, par exemple, quand j'ai acheté ma maison, ça a été fait. Le notaire était en avance, il l'a demandé, c'était non conforme, ça m'a permis de faire baisser le prix de la maison. À ce temps-là, c'était 3 000 euros, donc de 3 000 euros, aujourd'hui, ça serait de 5 000 euros. Donc, qu'est-ce qui vaut mieux pas, ça vient convaincre le particulier. Je ne suis pas conforme, je dois avancer 5 000 euros. J'ai fait la mise en conformité, j'ai été aidé de 5 000 euros. Grosso modo, ça ne me coûte rien. Et en plus, je ne perds pas 5 000 euros à la vente. Et je les ai financés par une opération. Donc ça va être, je pense, un point qui va permettre aussi d'essayer de faire avancer un peu les choses. Cette obligation d'avoir le contrôle de conformité au moment des ventes. Ça commence à se systématiser. Ça sera, je pense, un très bon point pour arriver à... Je crois que ça a été identifié dans un groupe de travail baignade. Aujourd'hui, pour arriver au bon état sur cet aspect-là, je ne parle pas de la gestion des eaux de pluie sur le temps de pluie, mais sur les branchements, je crois qu'il y a plus de 30 000 branchements qui ont été identifiés en Ile-de-France à mettre en conformité pour résoudre la problématique branchement. Pour vous donner un exemple, sur l'ancien programme, sur les 6 ans de l'ancien programme, le 10e, on a réussi à financer 6 000. 6 000, 30 000, vous voyez un peu le delta qu'on a à gagner pour réussir à atteindre les objectifs. Donc on essaye par des leviers différents dans ce 11e programme, par la commission de mandat, par le conformité au moment de vente, de pouvoir faciliter la démarche et d'avoir du coup, en augmentant les forfaits, d'avoir des résultats, on espère, qui seront d'ici 2024, en tout cas à la fin de 11e programme.
J'en profite pour réagir sur le groupe de travail qui a travaillé effectivement à ça. L'un des points, c'est effectivement comment amener le moins d'impact sur le particulier, et effectivement c'est au moment de la vente, parce que justement d'ailleurs c'est de l'information la plus honnête aussi de l'acheteur, parce que éventuellement il y a des obligations que du coup il n'a pas connaissance que demain on va peut-être l'obliger à faire des travaux, et en fait ça finalement c'est aussi une information honnête de l'acheteur, et du coup effectivement ça fait partie des sujets stratégiques. Là aujourd'hui je pense qu'on est à la 4e loi. Mais bon, avec justement avec le portage politique que l'on commence à gagner, l'objectif c'est effectivement d'inscrire cette obligation de contrôle des branchements et de mise en conformité également, parce que finalement ça a été évoqué par Christophe Lehoucq, c'est un petit peu un trou législatif, on appelle ça, mais voilà, il y a un trou législatif, et du coup aujourd'hui, c'est de juste remplir ce petit trou-là, disons cela. Et donc ça, c'est rendre obligatoire le contrôle de branchement au moment de la vente et la mise en conformité 2 ans après, en fait, un délai de 2 ans pour se mettre en conformité.
Merci beaucoup, Bilal, Jérémy. Le groupe commence à réduire fortement. Madame Mecker avait une question, et puis on va passer au petit quiz avant de se quitter.
J'avais une question, oui, pour avoir... Alors... Déjà, c'est très intéressant ce qui vient d'être dit sur la législation, puisque dans beaucoup d'endroits en France, on a des informations sur l'assainissement quand il n'existe pas, qu'il doit être réalisé, quand il n'y a pas de tout à l'égout, etc. C'est vraiment une obligation. Donc effectivement, cette mise en conformité par rapport aux eaux de pluie ou usées, c'est intéressant. Maintenant, moi j'ai une question particulière, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai un branchement, mes eaux usées sont bien séparées de mes eaux pluviales à la sortie de ma propriété, puisque mes eaux pluviales sont bien rejetées dans la rue. D'accord ? Donc, suis-je en conformité, sachant que ça va dans la rue et que ça tombe dans un abattoir et que ça va directement avec des eaux usées, puisque je suis très proche donc, de la capitale. Et donc, il y a quand même un intérêt, apparemment, si je comprends bien, à ce que ces eaux de pluie aillent le moins possible dans les collecteurs, puisqu'il y a quand même des pluies décennales, voire peut-être maintenant moins que décennales, qui d'un seul coup vont aller directement dans la Seine. Et à un moment donné, et d'autant, et alors je lis ça à ma. Donc, ça veut dire que si je mets en conformité, mais que je ne soulage pas, bien sûr, attention, hein, je ne mets pas d'eau usée qui va dans les eaux pluviales, c'est l'inverse, c'est moins grave pour les eaux de baignade, mais c'est quand même très grave, peut-être, d'une certaine façon, oui, in fine, c'est quand même très grave. Donc, si je déconnecte, c'est-à-dire si je me débrouille pour que ma gouttière n'aille plus couler dans le caniveau, en gros, c'est ce qui se passe, et dans beaucoup d'endroits, hein, c'est pas. Voilà. Est-ce que je suis donc dans, comme je suis en conformité, j'ai le droit à une tunnette? Ok, première chose. Et deuxièmement, c'est pour vraiment terminer, je voudrais avoir des nouvelles, je ne sais pas si ça a été dit quelque part, de ce qui se passe exactement sur la station d'épuration d'Achère. Quoi. Parce que suite à l'attentat il y a 2 ans maintenant, je pense, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ne doit pas être encore plus vigilant? Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe en cas de pluie, d'épisode pluvial complètement anormal? Voilà, j'avais ces 2 questions. Merci.
Je vais peut-être répondre rapidement, même aux 2. Hein, du coup, je ne sais pas si Jérémy, Maëva, vous avez trop d'infos. Mais là-dessus, ce que je veux dire, c'est que, en fait, ce que vous évoquez, c'est aussi une technique un petit peu autre de gestion des eaux pluviales. Disons, l'un des points, c'est soit on connecte directement les eaux pluviales, effectivement, dans le réseau, tout ça. Mais il y a une stratégie qui est sortie, disons, dans les années 70-80, mais qui était la technique un petit peu des gargouilles ou quoi ou qu'est-ce. L'un des points, c'est de déverser sur... enfin à ciel ouvert, de garder l'eau visible. Et d'ailleurs là-dessus, finalement, c'est pas une si mauvaise stratégie, quoi, hein, parce que finalement, quand on enterre, on n'arrive plus à rien voir. Donc bref, du coup, effectivement, l'objectif, c'est que le maximum d'eau pluviale reste à la parcelle. Comme le disait Maëva, l'un des points, c'est du T10 ans, la décennale, elle devrait rester au mieux à la parcelle, mais des fois, on n'y arrive pas. Et donc, du coup, éventuellement, se déverse au moment où on va aller vers les surfaces publiques, et ben le mieux quand même, et nous on défend ça quand même, c'est que ça se fasse à ciel ouvert. Passer par l'avaloir, en fait, au moins ça nous permettra de voir lorsque ça dysfonctionne et tout ça. Donc ça pose vraiment plein de questions stratégiques, mais pour rendre visible. Et du coup, je réponds... Ah, pardon ?
Je dis oui, c'est très visible, ça tombe dans l'avaloir directement, ok, d'accord.
Et voilà, effectivement, le mieux, c'est que ça passe par la surface infiltrante avant, un petit espace vert ou je sais pas quoi. Et après, l'espace vert, quand lui déborde, au lieu d'inonder, bah, je sais pas, le sous-sol de la personne, et bah, là, à ce moment-là, ça déverse par la voirie et ça passe dans la valoir. Et comme c'est visible et tout ça, et bah, on arrive parfois à mieux gérer un certain nombre de problèmes, vraiment. Il faut se dire ça.
Non, mais je suis d'accord, mais là, je parle côté rue. Côté rue. C'est vraiment côté rue, quoi. Donc, ça tombe sur du bitume. Alors, il faut débitumer, il y a plein de choses à faire. Ah, et oui. D'ailleurs, toutes ces rues-là, le chemin est à moitié fait. Si on débitume, si on crée un petit espace vert et qu'on dirige cette eau-là, oui, il y a un petit travail comme ça, ou on déconnecte une partie de la gouttière du côté jardin, je ne sais pas. Mais c'est quand même étrange d'avoir un double, d'être en conformité entre les mêmes, pour que ça tombe immédiatement dans un collecteur qui va peut-être déborder à un moment donné.
Ouais. C'est là où on tombe dans le deuxième sujet. Dans les enjeux majeurs du territoire, c'est qu'au-delà des branchements, on travaille beaucoup aussi plutôt avec les collectivités, parce que les surfaces auprès des collectivités sont beaucoup plus conséquentes, donc on voit un impact plus rapide. C'est ce qu'on appelle la déconnexion et la gestion des eaux de pluie à la parcelle.
Donc
on travaille auprès des collectivités pour que justement les ruissellements, plutôt de bâtiments publics, d'écoles, de mairies, d'un certain nombre de choses, de surfaces importantes, elles soient systématiquement ruisselées, renvoyées vers des espaces verts qui peuvent être en creux. Et là, dans votre cas, c'est un peu particulier. Effectivement, a priori, vous êtes conforme.
Mais on est plein comme ça dans mon quartier.
Je colle un peu parce qu'effectivement, est-ce qu'on peut financer de la déconnexion à quelqu'un qui est considéré comme conforme? Et je vous avoue que j'ai jamais eu le cas, il faudrait que je me renseigne. Sur le principe, on me renseigne, ça serait bien. Mais c'est là où il y aura plus de tourner à la frontière. Et la collectivité, alors on pourrait imaginer que c'est à vous, plutôt en domaine privé, d'essayer de faire des espaces. Mais on pourrait imaginer aussi que si la rue le permet, on puisse effectivement désimperméabiliser une partie de la rue, et que toutes ces eaux de ruissellement des maisons, si effectivement on ne peut pas le faire, si c'est des maisons qui ont peu de terrain, c'est peut-être, il faut avoir des mairies qui sont sensibilisées, qui sont bien au fait, qui sont moteurs. Ça commence à peine sur le territoire de la Bièvre. Il y a d'autres territoires où c'est beaucoup plus ancré, c'est encore récent sur la Bièvre, la prise de conscience. Et effectivement, on a des cas où la collectivité pourrait, si l'espace public le permet, recréer des petits espaces verts sur lesquels seraient renvoyés j'ai une super photo, ben, on la voit sur la diapo, là, sur la diapo de fin, la troisième en haut dans le bandeau, vous voyez, on prend la quatrième en partant de la gauche, 1, 2, 3, 4, on voit une placette verte avec une voirie autour, et bien ça, ce sont des maisons, et toutes les maisons, on n'a pas la photo, c'est dommage, mais c'est une autre présentation que Marie-Gabrielle fera sûrement pour les prochaines, il y a des gouttières qui arrivent au pied du bâtiment, elles ruissellent sur la voirie, elles sont dirigées dans l'espace central. Là, ça a été conçu comme ça dès le départ, mais ce genre de fonctionnement, on peut l'imaginer si l'espace public, bien sûr, le permet, ce n'est pas toujours évident. Mais on est un peu à la frontière, et du coup, ça demande peut-être à travailler et avec la collectivité et avec les particuliers. Les particuliers ont peut-être des choses à faire déjà chez eux avant de renvoyer, et peut-être un supplémentaire sur l'espace public. Mais c'est un peu particulier, effectivement, vous avez raison, vous êtes conforme sur le papier, mais ça n'empêche pas que là, on tombe dans le domaine, du coup, c'est plus la commission en conformité, mais dans le deuxième enjeu majeur qu'a soulevé M. Afrit lors de la présentation, qui est la problématique du gestion de temps de pluie, qui est un des enjeux majeurs pour atteindre le bon état et la baignade, les services de petite baignade, c'est justement ce temps de pluie. Par temps de pluie, on s'est rendu compte que c'est là-dessus fait qu'on travaille si on voulait gagner, parce que les stations d'épuration, elles sont déjà à 98% de rendement, donc on ne gagnera pas beaucoup plus là-dessus. C'est sur la gestion du temps de pluie et la gestion de la soif qu'on peut gagner encore, donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est pas simple, vous avez raison, c'est pas simple.
J'en profite en termes de fondamental. Hein. L'un des points, et je l'ai cité à un moment, c'est la salubrité publique, en fait, l'assainissement aussi. Et c'est pour ça que le bon branchement est absolument obligatoire. La conformité, c'est là-dessus que nous, on s'appuie pour la critiquer ou quoi au caisse. Mais finalement, pour les eaux pluviales, bah, ça serait le zonage pluvial qui pourrait donner une conformité ou quoi au caisse. Absolument. Et attention, du coup, stratégie un petit peu mutualisée, là, l'espace public, donc là-dessus, il faut vraiment faire les efforts chez le particulier aussi. Hein. Enfin,
il faut pas déresponsabiliser le particulier. On a tous notre rôle, il faut qu'on soit. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur cette gestion à ciel ouvert. C'est parce que justement, on veut que quand il pleuve et que les nous, par exemple, qui seraient mis dans la rue montent en charge, on veut que les habitants puissent se rendre compte. Parce que souvent, on dit, il pleut, je comprends pas, on n'a rien vu, c'est dans les réseaux. Puis pouf, quand ça déborde, tout le monde se plaint, ça déborde. Oui. Alors que là, c'est à ciel ouvert. Les particuliers, il pleut plusieurs jours, ils voient que ça monte en charge, ils sont conscients qu'il y a eu beaucoup de pluie qui est tombée, ils sont plus compréhensifs. C'est aussi cette prise de conscience sociétale qui est vraiment importante.
Oui, mais il y a quand même une question de sous-sol. Hein. Dans les régions gypseuses, il faut faire attention, pas de puisards. Dans les régions argileuses, donc il faut absolument un zonage pluvial, parce que sinon, on ne peut pas. On a du retrait gonflement en permanente.
Voilà, il n'y a pas de contexte rédhibitoire. Par contre, quand on a des cas comme ça de retrait gonflement d'argile, de gypse, ça demande des études complémentaires pour voir si on peut le faire. C'est ce que je vous disais. Le gypse, aujourd'hui, il pleut dessus, c'est pas pour ça qu'on a de problème. C'est juste qu'il faudra adapter sa solution. De l'argile gonflant, c'est pareil. Des fois, on a des sols polluants. On est capable, des fois, de décaisser, de remettre une terre avec une membrane imperméable, par exemple. Ça sera plus de l'infiltration en profondeur pour chercher là. Par contre, on peut faire cette notion de stock éponge, comme une éponge. D'accord ? Elle va stocker, et puis après, par beau temps, il y aura de l'évapotranspiration, la végétation qui va être là va consommer, il y aura de l'évaporation, et donc, du coup, le sol va s'assécher et pourra absorber à nouveau des pluies suivantes. Donc, il y a plein de solutions qui sont mises en place. Il y a des contraintes, des fois, elles sont embêtantes, elles vont restreindre les ouvrages mis en place, mais il n'y a pas d'endroit où on peut dire non, ce n'est pas possible. Et c'est là-dessus qu'on insiste beaucoup dans les pluies. Parce qu'autrefois, dans les zonages pluviales, c'était gypse, on ne peut pas, c'était des cartes qui étaient faites à échelle communale, donc qui n'étaient pas du tout précises, alors que sur la commune, on peut avoir des zones qui étaient sans gypse, mais il y avait de l'argile gonflant. Non, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, voilà, on essaie dans les zonages de dire, ce n'est pas niette, c'est s'il y a ça, ça nécessitera des études complémentaires pour s'assurer qu'on peut faire ou pas faire.
Et on donne une quantité de millimètres. Là, c'est 30 millimètres, c'est petite pluie, là, c'est un peu plus. On peut effectivement... moduler, c'est un zonage pluvial, c'est pour ça, c'est pour moduler. Mais rarement, jamais, je suis bien d'accord.
Et chacun doit faire le maximum, disons cela. Je réponds sur la partie Seine-Aval, donc attention avec les mots, surtout sur des sujets comme ça. Donc du coup, c'est pas un attentat, hein, c'est un incendie accidentel.
Ah mais j'ai pas dit attentat, j'ai dit incendie, hein.
Non,
j'ai dit attentat. Ma langue a fonctionné complètement, j'ai bien pensé incendie.
D'accord.
Donc, pardonnez-moi.
Pas de souci. Et c'est surtout que c'est un peu ce que
c'est. Non, mais j'ai même pas. Vraiment, c'est incroyable. Je sais bien que c'est un incendie. Pardon.
Pas de souci. Et donc, du coup, voilà, incendie accidentel, etc. Et en fait, qui a été vraiment assez difficile. Donc, il faut vraiment se dire, hein, on est à l'échelle industrielle. Hein, on est sur la plus grosse usine, station de traitement des eaux usées d'Europe, voire du monde.
Ouais, je sais.
Et, Et donc, du coup, il faut imaginer déjà la tête de l'incendie, quoi. Voilà, on est sur un vrai site industriel. Et donc, du coup, l'un des soucis, c'est, comment dire, que ça fait... Enfin, l'incendie s'est déclaré dans la partie clarifloculation. C'est une partie du traitement, disons, et qui nous sert soit à traiter le phosphore, en fait, d'habitude, et voilà, en temps sec, en fait. Et en temps de pluie, on est capable de faire... passer des eaux de pluie dedans, en fait les eaux sont diluées, disons, et on arrive à optimiser le traitement, tout ça, pour traiter au mieux, disons, le temps de pluie. Du coup, à ce moment-là, on a moins besoin de traiter le phosphore, disons. Là, du coup, avec cet incendie, bah, ça nous a détruit notre capacité à traiter le phosphore, et cette surcapacité qu'on avait en temps de pluie. Finalement, déjà, ça nous a permis aussi d'aller re-questionner un certain nombre de choses, c'est-à-dire que la clarifloculation, on est en train de la construire différemment. Pourquoi ? Parce qu'on envisage qu'un certain nombre d'eaux pluviales ne viennent plus au réseau. On essaye aujourd'hui aussi d'articuler et de prévoir, disons, la suite, quoi, disons. Et en fait, il y a une question, est-ce qu'on devait aller traiter jusqu'à autant de pluie, typiquement ? C'est un petit peu ça, là, la question qu'on est en train de reposer. Bref, vis-à-vis du phosphore, en 3 semaines, 1 mois, on était recapable de le traiter, du coup, par un biais, par un autre chemin, disons. Et par contre, effectivement, on perd notre capacité de temps de pluie. On a eu de la chance l'année dernière, en été 2020, donc c'est souvent l'été qu'il y a des déversements, etc. Et donc, du coup, on a eu de la chance. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un énorme été sec, assez sec. Il n'y a pas eu trop de pluie. Et donc, finalement, d'ailleurs, ça n'a pas trop dégradé l'état des CE. Mais, en tout cas, on a perdu notre capacité de temps de pluie. Et là, c'est en train d'être construit. Et encore une fois, parfois, il y a des discussions, disons, sur les délais. Il ne faut pas oublier l'échelle de l'usine. L'usine, c'est une ville, quoi, finalement. Et donc, du coup, lorsqu'on reconstruit une unité complète, bah, c'est long, voilà. Et donc, du coup, là, je n'ai pas les délais, comme ça, je ne peux pas les annoncer. Mais si jamais vous êtes intéressé par ces informations-là, justement, on a une action un petit peu de transparence, tout ça, là-dessus.
Que rien, hein, j'essaie juste de penser à la difficulté.
Après, sans vouloir culpabiliser qui que ce soit, il y a quand même encore des gros impacts sur les poissons en aval de la station aujourd'hui, hein. Il me semble que j'avais vu pas mal d'articles qui pointaient du doigt encore les dysfonctionnements, mais qui sont normaux parce que cette clarifloculation, elle n'a pas encore pu être remise en état, donc ça a quand même encore des impacts assez significatifs sur la vie aquatique, il me semble.
C'est ça, et en fait, du coup, l'un des points, c'est le temps de pluie. Nous, du coup, là, le temps de pluie, on n'est pas capable de... Donc, on est capable de gérer, en plus, une partie du temps de pluie, mais on a perdu la sur-surcapacité. Ce qu'il faut imaginer, hein, en temps de pluie, Senaval, elle acceptait 45 mètres cubes seconde. 45 mètres cubes, ça fait vraiment beaucoup par seconde qui sont traités. Ouais, et donc, du coup, c'est vraiment violent. Et l'un des points, c'est, effectivement... On a perdu cette surcapacité de temps de pluie, donc dès qu'on dépasse trop de pluie, paf, ça déverse. Et donc à ce moment-là, bah, effectivement, on a un impact environnemental. Et la question, du coup, là on est en train de construire par exemple un certain nombre d'aménagements aussi écologiques à côté, etc. Il y a des questions par exemple de îlots de survie des poissons, donc typiquement réellement une ouverture à l'intérieur des berges et un travail sur les berges. Pour ça, il y a des zones de réoxygénation de l'eau, etc. Et effectivement, là on a perdu cette capacité-là. Tant qu'on ne l'a pas reconstruite, il y aura un impact en temps de pluie, au moins, à cet endroit-là, à Laval. Et c'est une opportunité pour se questionner sur la capacité à traiter des eaux de pluie ou la nécessité d'aller traiter peut-être des eaux qui se seraient infiltrées, justement. Parce que quand on parle d'argile, etc., vraiment, sur les sujets argile, risque, tout ça, c'est vraiment le cœur de mon sujet, hein, si jamais. Donc n'hésitez pas là-dessus. Mais en tout cas... chaque goutte compte. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. Et si à l'échelle, je vous ai montré l'échelle du territoire, si à l'échelle du territoire, chacun retire une goutte, eh ben peut-être qu'on ne sature pas ses navals. Et du coup, peut-être qu'on n'a pas l'impact dans la rivière, etc. En fait, c'est vraiment le chaque goutte compte. C'est ça qu'il faut imaginer.
Madame Mecker, vous voulez rajouter quelque chose ?
Non, je vous remercie beaucoup. Ça encourage à être très... très actif, mais c'est très complexe quand même. Merci beaucoup, en tout cas.
Juste un mot par rapport au zonage pluvial. Le PLUI de Vallée-Sud-Grand Paris est en train, justement, de travailler sur ces questions-là pour créer un zonage pluvial adapté à chaque territoire de son périmètre, de son périmètre
d'action. Oui, je pousse pour ça, effectivement. Ah bah, voilà. Je suis ravie de savoir que c'est en train que ça mûrit, parce qu'on l'a évoqué dans l'élaboration du PLUI qui est en cours.
Et côté EPT, Saint-Vièvre, quelque chose?
Oui, il y a un PLUI qui est en cours aussi, mais qui est un peu moins avancé que le PLUI de l'autre EPT de Vallée-Sud-Grand-Paris. Je crois qu'ils en sont encore au premier stade de diagnostic. Voilà. Alors, on peut passer au quiz pour Madame Mecker et Monsieur Le Comte qui restent.
Les deux seuls.
Non, mais je vous en prie.
Donc, c'est vraiment rapide pour faire un petit point sur la soirée. Pour retenir en gros la qualité de l'eau potable sur le bassin versant de la Bièvre. Donc d'après vous, quelle est la qualité de l'eau potable?
Moi, je vote A.
Oui, elle est bonne.
Moi aussi.
C'est bien.
On va continuer.
Alors ensuite, c'est un petit rappel sur les collectivités compétentes en assainissement, parce que ça, on l'a déjà vu en première séance. Mais pour rappeler qui a en fait a la capacité de lancer les corrections de mauvais branchements.
Bon, c'est facile.
Alors, allez-y.
Les EPT.
C'est la A. Mais il n'y a pas que les EPT sur notre territoire. Oui, c'est ça.
Oui, non, mais c'est marqué les EPT.
Oui, c'est ça. Alors ensuite, pour se rendre compte un petit peu, quantifier tout ça, sur la durée du contrat du bassin versant de la Bièvre, donc qui est de 5 ans, de 2020 à 2024, et qui reprend l'ensemble des actions des acteurs, à votre avis, quel est l'objectif de correction des mauvais branchements pour les 5 prochaines années sur le territoire?
Moi, je vais voter C, parce que je suis ambitieux.
Bon, bah, et vous, Madame Mecker?
À votre avis, les collectivités compétentes, mais toutes les collectivités ensemble?
Oui.
Alors bon, bah, 6500 si elles sont toutes ensemble.
Alors 6500, c'est le nombre de contrôles qu'ils prévoient de faire sur le bassin versant de la Bièvre. Et 800, c'est le nombre de corrections qu'ils estiment pouvoir faire en 5 ans.
C'est ça, en fait, il en faudrait probablement beaucoup plus sur le territoire de la Bièvre, sauf que...
Qui se rejettent directement.
Les collectivités d'agglo du plateau sont en train de se mettre en ordre de bataille, donc forcément, elles ont pour l'instant des objectifs qui sont très limités. Et dans la théorie, il faudrait qu'on soit peut-être probablement plus près des 3 ou 4 000 minimum, je pense, pour essayer d'avoir vraiment résolu la majorité des mauvais branchements du territoire.
Et donc, du coup, en termes de pollution, est-ce que vous savez à peu près 800 mauvais branchements, à quoi ça correspond en termes de pollution?
500,
c'est... Oui, c'est
je
ça.
Je suis.
C'est ça. Donc, du coup, je vous avais marqué en dessous, pour rappel, un équivalent habitant. Donc, c'est l'unité qu'on utilise pour quantifier une pollution dans un cours d'eau. Et donc, ça revient, en gros, à la pollution émise par un habitant par jour. Et donc,
on considère qu'il y a 3 habitants par maison,
en tout cas dans les régions, moyenne.
Même si ce n'est plus le cas aujourd'hui, on est plutôt à souvent 2,5, 2,7, mais on prend comme base nous, 3 équivalents habitants par maison.
C'est ça. Et donc du coup, juste pour rappel, la prochaine séance, donc, c'est lundi, toute la journée, à l'EPA PS. Donc je crois que vous ne pouvez pas venir tous les deux. Mais vous aurez l'ensemble des documents relatifs à la journée de toute façon sur notre site internet. Et puis si vous intéresse, je peux aussi vous les envoyer par mail en plus.
Les documents de cette soirée, on les a aussi...
Pareil, sera mis sur le site internet. Et puis je vous les enverrai, j'enverrai aussi aux participants sous format téléchargeable.
Je vous remercie beaucoup. Merci vraiment, très intéressant.
Merci à vous.
Merci beaucoup à vous, merci. Bonne soirée à tous, bon week-end.
Merci.